Bien, donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Alors le seul luxe que je demande, c'est le silence. Hein, mais là, je suis assez tyrannique, parce que dès que vous dites n'importe quoi, ça me trouble et on diminue l'efficacité de la communication. Même passe-moi le sel, enfin, oui, c'est un peu maniaque. Hein. Bon, mais ça, c'est mon seul luxe. Alors, le point donc qu'a précisé Étienne, c'est grâce à Eric que vous pourrez aller voir sur sa page le texte développé de ce que je vous ai dit, ou ce que je ne vous ai pas dit, parce que je ne dis pas tout ce que j'ai sur mon texte, il y en a trop. Hein, je préfère extraire un peu les choses en fonction de l'inspiration et du bruit des autobus. Quoi. Alors, et puis l'enregistrement, éventuellement, bon, c'est pour vous, ou peut-être pour un copain qui est capable d'écouter ça sans se scandaliser s'il y a des mots qui ne sont pas tout à fait académiques dans le processus. Alors, donc, on a fait 2 années sur l'apologétique. Hein. L'apologétique, c'est une démarche de raison pour aller vers la foi. Ça ne contraint pas à arriver dans la foi, mais ça montre que si je vais vers la foi, la raison dit « ça va, c'est pas faux, c'est pas fou, c'est pas… » voilà. Bon, alors on a fait toute une série d'instructions tendant à montrer que le message du Christ était juste, à savoir que le Christ était celui qui disait, et ensuite on s'est attaqué à la question de l'Église. Est-ce que l'Église catholique est l'Église mandatée par le Christ ? Alors, on a donné 3 conférences à partir du mois de janvier, qui sont tout à fait capitales, qui nous permettent de positionner le lieu où se trouve la société qu'a fondée le Christ. Hein, la première conférence, c'est qu'il a fondé une église en janvier. Hein. Il a fondé une église visible, dotée d'un magistère, d'une hiérarchie. Donc, toutes les églises qui n'ont pas d'hiérarchie n'ont pas de titre à se prétendre chrétienne au sens fort du terme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'était en janvier. En février, on a montré, par les textes de l'Écriture, hein, mais à supposer aussi que vous aviez suivi les cafés cathés d'avant, ou que vous allez les écouter sur la page d'Éric, qui montre que l'Évangile est historique. Mais d'après ces textes historiques de l'Évangile, le Christ a donné le primat à quelqu'un dans cette église qu'il a fondée. Donc l'église, les églises où il n'y a pas de primat ne peuvent pas se réclamer du titre absolu de vraie église du Christ. Donc ça, c'était la conférence de février. Et puis en mars, on en a conclu que l'Église romaine était véritablement la vraie Église du Christ, du point de vue de la raison. Alors, on est convaincu, on n'est pas convaincu, mais c'est une démarche rationnelle, faite par des gens qui ont la foi. C'est ça un peu particulier. Moi, en tout cas, je vous remercie d'être là, parce que ça m'a intéressé, cette année m'a intéressé, m'a un peu fatigué, m'a intéressé, parce que c'est des sujets difficiles, mais le type qui a la foi, comme moi, enfin, je suis censé l'avoir, hein, je crois que je l'ai, parce qu'on peut être sûr d'avoir la foi. On n'est pas sûr si on a la charité, tout à fait, métaphysiquement. Non, si vous n'avez pas rejeté la foi que vous avez reçue à votre baptême, vous l'avez. Bon. Donc, le type qui a la foi, qui parle à des gens qui l'ont ou qui ne l'ont pas. Alors, ceux qui ne l'ont pas, ça peut les aider à y venir. Et ceux qui l'ont, ça leur montre que ce n'est pas complètement louf. Quoi. Bon, donc ça, c'était la 3e conférence. L'Église romaine est-elle la vraie Église du Christ ? Et donc, on a montré que oui, parce qu'elle avait la succession apostolique. Et quelqu'un qui disait avoir le primat, et que c'est la seule qui dit ça. Donc, ou bien Christ est un imposteur, hein, ce qui est, voilà, a priori, pas exclure cette hypothèse, rationnellement, ou bien, s'il n'est pas un imposteur, l'Église qu'il a fondée, c'est l'Église romaine. Alors après, il y a 3 conférences qui sont plus juteuses, si vous voulez, au point de vue du... Moi, je les trouve plus sympathiques, si vous voulez, parce que sympathiques, enfin, disons, plus accessibles, mais qui sont plutôt des confirmations. Vous voyez, il y a 2 conférences, on a montré que la propagation de l'Église était admirable et s'expliquait pas par des arguments purement humains. Est-ce que l'admirable propagation de l'Église confirme son caractère divin ? On a dit oui, c'est une confirmation. Et puis la conférence du mois dernier, on a montré que la sainteté exceptionnelle, parce qu'il y a de la sainteté dans d'autres groupes, hein, spécialement chez les orthodoxes, et aussi un peu ailleurs, moins, beaucoup moins, mais il y en a quand même, mais la sainteté exceptionnelle du groupe ecclésial catholique, confirmait l'origine divine de l'Église catholique. Voilà. Et maintenant, donc, dernière conférence de cette année. L'année prochaine, je pense qu'on parlera des sacrements, si je suis encore en vie. Et à partir du mois de novembre, parce que je suis trop pris pour reprendre avant, on repassera une chose un petit peu plus spirituelle, théologique. Voilà. Mais maintenant, on voudrait terminer cette série d'apologétiques des 14 cafés cathés en montrant qu'il y a d'autres éléments, en dehors de la sainteté de l'Église, qui confirment que l'Église catholique est la vraie Église du Christ, hein, qu'elle a des titres à soutenir la prétention qu'elle a d'être la vraie Église. C'est pour ça que je vous ai mis au début de votre résumé, je vous ai mis un petit truc sur les notes de l'Église. Voilà. et vous trouvez dans le petit schéma que je vous ai fait. Alors il y a plusieurs petites flèches parce que j'ai pas trouvé, je suis pas très fort dans les caractères spéciaux. Donc ça doit être une grande flèche, si vous voulez, entre apostolicité et sainteté. Bon. Mais j'ai essayé de vous mettre, quand vous dites le credo, vous dites l'Église, sainte, catholique et apostolique. Voilà, c'est trois ce qu'on appelle des notes de l'Église, qui sont reconnues par tous les chrétiens qui ont une Église hiérarchique. Et c'est pas reconnu par les groupes protestants, du moins la plupart d'entre eux, mais c'est reconnu et affirmé par les catholiques. La vraie Église est celle qui est une, sainte, catholique et apostolique. C'est reconnu, affirmé par les orientaux dissidents, particulièrement les orthodoxes, mais aussi les autres orientaux, qu'on appelle pré-calcédoniens, comme les coptes ou les arméniens. Bon. Donc tous les orientaux qui ont des évêques, qui ont une église hiérarchique, reconnaissent ça. Et de même, dans une certaine mesure, une partie des protestants, les épiscopaliens scandinaves et les anglicans. Tous ceux qui disent qu'il y a une hiérarchie dans l'église reconnaissent que la vraie église du Christ va être discernable avec ces caractères-là. Oui. C'est pour ça qu'on les appelle des notes, parce que ce sont des choses qui permettent à quelqu'un de bonne foi de se dire, s'il y a une société religieuse valide, eh bien, elle sera une, parce que le Christ a prié pour l'unité, elle sera sainte, parce que le Christ l'a fait pour ça, elle sera catholique, parce qu'elle est destinée à tous les hommes, et elle sera apostolique, parce qu'elle est la suite de ce que le Christ a fait. Donc ça, les chrétiens, disons, les plus proches du disque dur, si vous voulez, de la vérité, hein, disent ça. Il y a quatre notes dans l'Église, enfin quatre notes, on les distingue, mais en fait elles sont très liées entre elles. Alors on a vu la sainteté la dernière fois, et là on va voir un peu d'un seul coup l'unité et la catholicité. Et d'une certaine façon, l'apostolicité maintenue au travers des âges, qu'on appelle la constance. Vous voyez. Le fait qu'un groupe maintienne son caractère apostolique et reste identique à lui-même au travers des âges, la constance de l'Église romaine, voilà. C'est la preuve qui maintient l'apostolicité. Et donc, vous voyez que ces trois, dans mon petit schéma, là, hein, j'ai mis les noms techniques des causes pour les intellos et ceux qui ont fait un peu de philo, ou qui suivent le cours de Doja, ou qui se mettent dans un résumé de causes efficientes, formelles et finales, mais vous affolez pas si vous comprenez pas, j'ai mis la traduction, hein, c'est l'agence, celui qui produit la chose, c'est la hiérarchie apostolique. La cause formelle, c'est ce qui fait l'unité, comme l'âme dans un vivant, et la cause finale, c'est le but de la manip. Pourquoi Dieu a fait une église? Pour que les gens soient saints. Donc cette note de sainteté est très importante. Et à elle seule, vous voyez, elle suffirait, ou elle suffit, parce qu'elle a un miracle moral, à désigner la vraie église. L'église est là où se trouve la sainteté. Mais d'une façon globale, institutionnelle, massive, et nettement plus qu'ailleurs. Voilà. Donc la note de sainteté est à part. Hein. Mais alors maintenant, les trois autres notes dont on va parler aujourd'hui se tiennent. L'unité, la catholicité, l'apostolicité se tiennent. Et on va donc les regarder, et on va voir que l'Église romaine, parmi toutes les églises qui se disent chrétiennes, j'ai mis église entre guillemets, parce que techniquement, le terme église doit être réservé à ceux qui ont la succession apostolique, et spécialement à ceux qui ont la succession apostolique catholique, c'est-à-dire en union avec tous les évêques du monde autour du premier d'entre eux. Voilà. Donc on va voir ces trois aspects, l'Église romaine est une, et elle est plus une que les autres, même si les autres ont une certaine unité, hein, les orthodoxes surtout, hein, moins les protestants. Elle est catholique plus que tous les autres, en un sens plus profond. Et puis, elle est apostolique en sens qu'elle tient le coup en restant identique à elle-même, avec une capacité d'adaptation assez exceptionnelle. Bon, donc c'est un peu un résumé, un survol que je vous fais. Mais plus on regarde ces choses-là, plus on s'aperçoit que ce n'est pas des carambistes. C'est bien fichu, quoi. L'Église romaine est bien fichue. Moi, j'étais agnostique 5 ans, et dans cette période d'agnosticisme, je me disais, bon, s'il y a un truc vrai, ça doit quand même plutôt être les cathos, parce que les autres, il n'y a pas photo. Enfin, pour moi, à l'époque, on ne disait pas il n'y a pas photo, c'est une autre expression, parce que je suis assez ancien, quand même. Je suis d'avant la guerre du Golfe. Voilà. Donc, mais quand même, je me disais, bon, voilà. J'ai étudié l'islam, le bouddhisme et des trucs comme ça, mais le protestantisme, je n'ai pas trop étudié. Là, je l'ai un peu étudié pour préparer la conférence. Ça m'a confirmé que j'avais raison de ne pas l'étudier quand j'avais ma crise d'agnosticisme. Ce n'est pas par mépris, parce qu'il y a de très grandes choses dans le protestantisme, mais dans le texte complet que vous irez voir sur la page d'Eric, je vous ai tapé avec mes doigts, mais bon, comme ça, parce que je ne suis pas bien tapé, quand même des extraits de Marie Carré, qui est une convertie du protestantisme, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « J'ai choisi l'unité ». Donc c'est un livre de 62, donc c'est une bonne période 62.
parce qu'en 62 il y a encore la formation théologique traditionnelle, et voilà, il y a un certain et en même temps une bonne documentation scientifique et historique. C'est comme dans les bouquins, en 62 on a déjà des bons manuscrits, et on n'a pas encore trop d'hérésies modernistes. Donc c'est une bonne année, quoi. Les cuvées entre 50 et 60, c'est des bonnes années. Alors Marie Carré s'est combattue du protestantisme toute seule par le raisonnement que je vais vous faire ce soir. Enfin, elle l'a fait mieux parce qu'elle a pris du temps, bon, d'accord. Mais enfin, elle a fait un bouquin, et je vous ai tapé des passages clés de ce bouquin qui sont absolument craquants, quoi. Et en plus, c'est pas trop difficile, elle n'était pas théologienne, donc elle ne pouvait pas vous mettre des trucs comme la cause efficiente ou la cause formelle, comme je vous mets, pour vous en kikiner un peu, mais bon. Voilà. Donc, on va voir, l'Église romaine est une, elle est catholique et elle est apostolique. Et ces trois choses-là, prises ensemble, c'est le critère juridique de la vérité de l'Église du Christ. Parce que le sainteté, c'est un flash, si vous voulez, qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas. Beaucoup de gens se convertissent avec la sainteté. Hein. Parce qu'ils découvrent, dans les pays musulmans, la sainteté des sœurs qui se dévouent pour rien, la charité, etc. Voilà. Ou dans un autre contexte, on découvre, je disais, dans Famille Chrétienne, il y avait un numéro sur les musulmans convertis, et l'une d'entre elles disait, mon père qui était dans la mouise, il y a une sœur qui est venue lui donner de l'argent, j'étais sidéré qu'un chrétien s'occupe de nous, etc. Donc la sainteté, c'est un flash voilà, qui peut nous atteindre, et c'est plus important. Mais alors les autres choses, vous voyez, c'est le critère qu'on peut appeler juridique, quelle est la vraie Église ? C'est celle qui est discernable humainement, c'est celle qui continue ce qu'a fait le Christ, c'est celle qui historiquement prolonge la hiérarchie apostolique. Et donc, si on arrive à prouver, et maintenant les protestants historiques, les historiens protestants sont arrivés aussi d'accord avec les catholiques là-dessus, hein, à prouver que l'Église catholique a bien la structure apostolique de la génération juste après Saint-Jean, donc 2e siècle et 3e siècle, et qu'en plus, après, ça s'est continué avec, même qu'il y a dans une société dont le président est élu dans les règles, ça a été élu dans les règles, ni chiffre ni hérésie, c'est là la vraie Église. Et donc, ces critères juridiques. C'est parce qu'il faut bien voir que le critère, ce n'est pas un truc trop compliqué. Oui. Parce que si vous dites, je vous ai mis ici, je crois, dans le résumé, oui, je vous ai mis le critère protestant. Est-ce que j'ai mis le résumé ? Non, résumé. Oui, j'ai mis le critère protestant. Les protestants, parce qu'eux, ils recusent la notion même de note, hein, parce que pour beaucoup de protestants, l'Église n'est pas tellement visible. C'est un truc intérieur, c'est la foi, bon, ça reste chacun à sa foi, etc. Beaucoup de cathos un peu protestantisés pensent ça aujourd'hui. Hein. Mais justement, ça, c'est un problème plutôt marrant, enfin, pas semi-marrant, mais bon. Mais c'est bon. Moi, je parle du catho en tant que tel, quoi. Pas du catho pur jus, breveté, Saint-Pie-Saint, hein, forcément. Hein. Mais même du catho chacha, ce que vous voulez, qui reconnaît le magistère catholique. Quoi. Sinon, il n'est pas catho formellement. Bon. Et donc, ce catho-là, lui, il dit, il y a des notes dans l'Église. Là. Et un homme de bonne foi se dit, si le Christ, qui est Dieu, parce qu'on suppose que les premiers qui a fait cathé là-dessus, et que les évangiles sont historiques, a fondé une vraie Église, un homme de bonne foi peut la reconnaître. Donc il ne va pas avoir à trancher sur l'exacte prédication de l'Évangile et l'administration correcte des sacrements, qui est le critère que les protestants ont fini par forger, attaqué par les polémistes catholiques, en disant, mais où sont vos titres, d'où sortez-vous ? Qui vous permet de dire que c'est vous qui avez raison ? Et que pendant 1000 ans, parce que la thèse protestante, c'est qu'il y a eu 500 ans de catholicisme authentique et 1000 ans de corruption. Et tout d'un coup, Luther et Calvin sont venus, et comme chacun sait, ils ont donné des exemples magnifiques de sainteté pour nous montrer où était la sainteté de l'Église catholique. Quoi. Alors, ils n'avaient aucun titre, si vous voulez, et l'argument fondamental du christianisme catholique contre l'invention protestante, c'est de dire d'où sors-tu ? T'es sympa, tu connais peut-être mieux la Bible que moi, mais d'où sors-tu ? Est-ce que pendant 1000 ans, il n'y a pas eu d'Église ? Alors du coup, maintenant que les protestants intelligents, il y en a beaucoup, hein, se rendent compte qu'historiquement, la thèse des premiers protestants ne tient plus, consistait à dire que c'était complètement décadent, machin, machin, machin. Pendant 1000 ans, il n'y a pas eu de christianisme, au fond. Ils se rendent compte que ça ne tient pas. Donc, du coup, on va voir avec des citations de Adolf von Harnack, qui est le grand fondateur du rationalisme, on arrive à dire, mais non, la lecture normale chrétienne de l'Église, c'est la lecture catholique. Mais tout le monde s'est gouré depuis le début. Les apôtres n'ont pas compris le Christ. Le Christ, c'est un mythe, ou c'est ceci, c'est cela. Et donc, c'est à partir de là que c'est infiltré, vers la fin du 19e, début du 20e, le rationalisme et le modernisme. Parce qu'au fond, le protestantisme l'a produit d'une certaine façon logique. Quoi. La thèse historique protestante est tellement inconsistante, et maintenant ça a été reconnu par beaucoup de protestants, qu'on en arrive à dire, c'est dès le début qu'il y a l'erreur, l'Église catholique reproduit bien ce qu'ont fait les apôtres, mais les apôtres n'ont pas compris ce qu'était le Christ. Alors c'est encore plus énorme à mon avis, mais ça montre que la vérité est dans la direction de ceux qui sont dans la continuité. Donc il y a un critère juridique plus facile à reconnaître que le cœur du catholicisme, évidemment, et que le cœur de la vraie religion. Parce que sinon, ce n'est pas un critère. Hein. Le critère, c'est un truc qu'on peut me dire, voilà, Quand je vous ai lu la dernière fois, je crois que je vous ai lu les successions énoncées par Clément et par Irénée de Lyon. Donc Irénée de Lyon, c'est un peu chez nous, ça. Hein, qui énonçait les 12 premiers pontifes de Rome. Ben, il en avait les preuves. Hein. On a des textes reconnus comme historiques, même par des mecs complètement agnostiques, qui disent, nous savons les fastes, c'est-à-dire la succession épiscopale de l'Église de Rome, comme on connaissait au sud d'Alexandrie, d'Antioche, etc. Et donc, historiquement, Irénée montrait que l'Église qui se nommait catholique était bien celle qui succédait techniquement et juridiquement à Saint-Pierre. Et en plus, il n'y a pas eu de schisme, il n'y a pas eu d'hérésie, et donc ce groupe-là est bien apostolique, hein, et catholique. Et ça, c'est le critère juridique. Alors, on va le voir un peu plus en détail. Alors, d'abord, est-ce que l'Église romaine est une ? Bon, la réponse, c'est que, d'abord, on va voir la cause de l'unité, vous voyez. L'Église romaine est une plus que tous les autres groupes chrétiens. Ça, c'est une chose qui est assez facile à reconnaître. Hein. Parce que le Christ a voulu une société qui soit une, hein, relisez les chapitres de Saint Jean, discours après la scène, qui soit un, etc., toute cette prière-là. Bon. Et il a fondé cette société visible, une, et cette unité que le Christ a voulu, c'est pour ça qu'on a fait une conférence sur la hiérarchie, est une unité qui est soutenue, qui n'est pas simplement dans mon cœur. Je t'aime bien, je suis en communion avec toi. Bon, ça c'est gentil, merci, pouic pouic, ça, je suis content, tu es en communion avec moi, tu reprends de la chouffe, là c'est bon, etc. C'est aussi une forme de communion. Hein. D'ailleurs, dans la plupart des peuples, la communion s'exprime par le repas. Quoi. Donc là, on est en communion, c'est un café-café, un côté convivial. Voilà. Et puis en plus, on est bien accueilli par le patron qui nous aime bien, et par monsieur qui succède brillamment à son prédécesseur, lequel était aussi devenu très champion pour circuler entre les tables. Donc il y a une unité qui doit être visible, pas simplement dans le cœur. Parce que la thèse protestante, c'est que l'unité est invisible. Bon, ben d'accord, ben alors on se tait, si vous voulez. Alors je vais être, l'unité catholique est structurée par trois éléments fondamentaux. Le dogme, c'est-à-dire unité dans la foi, hein, unité dans le gouvernement, soumission à une même hiérarchie, et l'unité dans le culte. Et ces trois éléments, je vous ai mis une citation qui est du code de droit canonique, sont les éléments visibles de la communion ecclésiastique. Quelqu'un est catholique s'il reconnaît le credo catholique, s'il est soumis au pape et aux évêques en véritable communion avec le pape. J'ai rajouté un adjectif un peu mordant, mais bon, c'est clair. Quoi. Et puis, s'il reconnaît les sept sacrements tels qu'ils sont gardés par la tradition commune, d'ailleurs, aux églises d'Orient, d'Occident. Et s'il les pratique et il dit qu'ils sont valides. Pas forcément, les rites peuvent être différents. Eh bien, l'Église catholique, cette unité-là, cette unité, et tout ça, c'est destiné à produire, évidemment, l'unité des cœurs, on est d'accord. Hein. C'est une unité interne dans le but, si vous voulez. Mais les moyens sont externes. Les moyens, c'est l'unité de la pensée dogmatique, l'unité du gouvernement, et l'unité de la nourriture, dont on parlera l'année prochaine, de ce que Nicolas Cabasilla s'appelait la vie dans le Christ. La vie dans le Christ vient d'une source sacramentelle qui est commune à tous les catholiques. Voilà. Eh bien, à tous les chrétiens, les catholiques. Eh bien, cela, seule l'Église catholique, c'est pour ça que j'ai mis qu'elle était plus une que les autres, possède cette triple unité. Pour une raison très simple, c'est qu'elle est la seule qui affirme avoir un magistère infaillible, un gouvernement où un des évêques a le primat sur les autres, et sept sacrements qui sont les mêmes pour tous. C'est la seule. Parce que les orthodoxes ont les sept sacrements. D'ailleurs, c'est un argument très fort contre Luther et Calvin. Les orthodoxes et les autres dissidents orientaux ont sept sacrements comme nous. Or, c'est des gens très traditionnalistes, même alors, plus traditionnalistes, tu meurs. Hein. Moi, il y a des tradis cathos, je leur dis, si tu veux faire un stage, va au Mont Athos, tu vas voir ce que c'est qu'un vrai tradis qui sent mauvais. Quoi. Parce qu'alors là, il sent carrément mauvais, il te dira, t'es pas prêt parce que t'as pas de barbe. Non, mais ça, vous entendez ça. Donc, si vous voulez, des sons traditionnalistes un peu figés, allez au Mont Athos, si, pas les femmes. Hein. Parce que, grâce à Dieu, il y a toujours l'interdiction pour les femmes de rentrer à l'Athos. Parce que l'Athos, une terre consacrée à la mère de Dieu. Hein, c'est la montagne de la mère de Dieu, donc malgré les pressions des Européens, les femmes ne rentrent pas. Mais si tu es un homme et que tu es majeur, hein, moi j'avais fait le mur, je suis rentré à 17 ans. À l'époque, il fallait avoir 21 ans pour rentrer. Mais donc tu pourras aller voir des vrais tradis. Alors le tradis, bah, dans son côté caricatural, moi je suis tradis, donc je ne fais pas de la contre-pub, mais je veux dire, le tradis caricatural, c'est celui qui ne bouge jamais. Quoi. Donc les orthodoxes disent, il y a sept sacrements. Donc il y a sept sacrements. Hein. Ça, c'est pas impossible qu'on ait inventé les sacrements après le 4e siècle, puisque les orthodoxes qui vont jusqu'au 8e ou 9e les reconnaissent. Donc, Luther et Calvin existent
va boire ta bière
et faire ta confession d'Augsbourg, t'es faux. T'as faux. Le protestantisme, il a faux, hein, c'est clair. Bon. Donc, il y a les sacrements. Il y a deux autres formes de sacrements avec les orientaux. Hein. Donc, orientaux, attention, orientaux, c'est dissidents, c'est les orthodoxes, c'est-à-dire les byzantins, les gréco-russes, quoi, en gros. Mais, attention, on appelle, nous, orthodoxes, que les orthodoxes n'appellent pas orthodoxes, à savoir les pré-calcédoniens, les coptes, les arméniens, les jacobites et les syriaques, qui sont considérés comme hérétiques par les byzantins. Je vous signale ça au passage, parce que quand on connaît un peu l'Orient, ça les fait rigoler, surtout que les coptes détestent les byzantins. Les byzantins leur coupaient les doigts, parce que pour une histoire de si tu dis pas deux, on te coupe un doigt, etc. Donc ça dure encore dans l'église copte. Il y a une distanciation vis-à-vis des Roumes, c'est-à-dire du monde romain, c'est à la fois les byzantins et les romains, qui vient des persécutions de l'orthodoxie byzantine imposée en Égypte sur la question monophysite. Ou sur le fond, les Byzantins avaient raison, mais les méthodes, évidemment, n'étaient pas forcément d'une suavité très convaincante. Quoi. Et donc, ils ont gardé ça. Hein. Donc, je vous dis ça, c'est pour vous montrer que l'Orient, c'est toute une panelle. Hein. Enfin, tous les orientaux reconnaissent les sept sacrements. Mais alors, ce qui se passe, c'est que les catholiques... Venez, il y a un texte là à l'entrée, donnez-lui un texte, monsieur. Et puis, vous avez une place là. Donc, les catholiques ont deux choses... Voilà. On deux choses par rapport aux autres que les autres n'ont pas. Vous notez la question ? Parce que j'arrive, je perds mon fil, hein, sinon. Mais même ça, je suis mauvais hein, dans les questions interrompantes. Bon. Donc les catholiques ont deux choses. Ils ont le magistère, c'est-à-dire qu'ils appliquent la parole du Christ à Pierre. Hein, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps et je vous assiste à enseigner, je suis avec vous, vous voyez ? Est-ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux, etc. Et donc les catholiques ont un magistère qui nous guide et une juridiction, c'est-à-dire un gouvernement qui est cohérent en ce sens qu'il n'y a pas simplement une multitude d'évêques, mais parmi les évêques, il y en a un qui est premier dans la dignité épiscopale, selon le terme de saint Thomas d'Aquin, qui est l'évêque de Rome. Ce qui fait qu'on peut non seulement avoir tous la foi, ce qui est très bien, mais exprimer de la même façon la foi. Parce que la foi, évidemment, est un contact entre nous et Dieu, hein, qui est quelque chose d'indicible, mais comme c'est dans l'intelligence, la foi est dans l'intelligence. Hein. C'est très important. Hein. C'est pas un pouic-pouic uniquement par là. Quoi. Hein, bon, la foi, c'est vraiment une lumière reçue dans l'intelligence. Donc, Dieu a voulu qu'elle s'exprime. Et elle s'exprime de façon intelligible par des paroles humaines. Et ces paroles humaines, c'est le credo. Et tous les dogmes définis par l'Église romaine. C'est-à-dire, dans l'acte de foi, on dit « Mon Dieu, je crois toutes les vérités que vous avez révélées, et que vous nous enseignez par votre Église. » Donc tous les catholiques croient les mêmes vérités, ou sont disposés à les croire s'ils se rendent compte qu'elles sont enseignées par l'Église. Et donc il y a un principe d'unité qu'on trouve absolument nulle part ailleurs. Et puis ensuite, tous les catholiques sont soumis au souverain pontife, dans la sphère de sa juridiction, et à l'évêque du diocèse. Alors que chez les orientaux, il y a les évêques, mais il n'y a pas d'autorité inter-épiscopale, le patriarche ayant des choses qui lui sont concédées ou retirées, par les coutumes et les traditions de chaque église, dans les synodes, etc. Donc il y a beaucoup moins d'unité, d'ailleurs eux-mêmes s'en rendent compte, entre les différents diocèses, et a fortiori entre les églises, l'une par rapport à l'autre, qui sont plus ou moins autonomes les unes par rapport aux autres. Et surtout, il manque aux orthodoxes l'unité dans la foi, parce que, pour eux, vous voyez, même si les évêques ont un travail de surveillance pour prohiber les mauvais livres contre la foi reçue des sept premiers conciles, pour maintenir la discipline, s'il y a une controverse, on ne peut pas la trancher. Ou bien, les choses reçues ne peuvent pas se développer, vous voyez. Parce que pour trancher, il faudrait un concile œcuménique. Or, le dernier concile œcuménique remonte à 1224 années. Donc, ça veut dire que si on suit l'intuition de ceux qui se qualifient orthodoxes, et des orientaux dissidents, les autres, la capacité que le Christ a donnée à l'Église de trancher les controverses de foi est interrompue depuis 1224 ans. Alors il y a un vrai problème. Parce qu'il n'y a pas de concile panorthodoxe, ils parlent de le réunir, mais jusqu'ici ils n'y arrivaient pas. Peut-être ils vont y réussir, mais en tout cas, voilà, ils n'ont pas ça. Alors donc, les catholiques ont cette unité-là, donc. Par contre, les protestants n'ont pas du tout. Ça vous irez voir sur le... Vous irez voir sur la page mise à votre disposition gentiment par Eric, les textes de Marie Carré. Le principe même du protestantisme, c'est le livre examen. C'est-à-dire, on te donne la Bible, et tu es tout seul avec la Bible. Et donc tu lis la Bible et tu es supposé avoir l'inspiration du Saint-Esprit. Mais en fait, ça marche difficilement parce que je vous ai mis ici dans votre résumé, je crois que j'ai mis la citation d'Arnac, disant « Si l'on nous objecte, vous êtes divisés, autant de têtes, autant de doctrines, nous répondons « c'est vrai », mais nous ne désirons pas qu'il en soit autrement. » Parce que précisément, vous voyez, le protestantisme, c'est assez particulier. Hein. Ils disent, vous voyez, la foi est un contact personnel avec Dieu, ce qui est vrai. Mais comme c'est un contact humain, ça ils oublient, c'est un contact avec l'intelligence. Donc qui dit intelligence, dit une affirmation. Et le catholicisme, c'est beaucoup plus humain. Parce qu'il dit, ton contact avec Dieu, il se traduit comment? Est-ce que le Christ, c'est Dieu? Est-ce qu'il y a trois personnes dans la Trinité? Est-ce que le Christ est réellement présent là, dans ce petit bout de pain, consacré par quelqu'un qui a lui-même été consacré par les successeurs des apôtres? Oui ou non? Ah ben, chacun pense ce qu'il veut. Et si vous voulez, quand vous creusez un peu le principe d'unité du protestantisme, c'est un principe purement négatif, c'est-à-dire qu'on peut être protestant du moment qu'on dise qu'on pense qu'on veut, si vous voulez, mais il faut au moins nier un dogme catholique. Parce que sinon, vous n'êtes pas protestant, vous êtes catholique. Et il arrive ce qui est arrivé à une personne que je connais, elle a été voir son pasteur, et elle a dit, voilà à quoi je crois à ça, ça et ça. Alors le pasteur, qui était un type comme ça, lui a dit, ben, allez chez les catholiques, vous êtes catholique. Là, non mais chapeau, c'est bien quoi, parce que le gars, voilà. Mais si vous voulez, c'est assez émouvant d'ailleurs, parce que en fait, Luther, bon, a commencé à démolir des trucs. Après, ceux qui sont arrivés après, enfin, il y a une cohérence dans le dogme catholique. Hein. Ils ont dit, ils ont été intelligents aussi, parce qu'ils n'ont pas oublié d'être bêtes. Hein. Donc ils se disent, mais le patron a cassé ça. Mais logiquement, ça doit casser ça aussi. Luther était pour la présence réelle, enfin mal comprise. Mais ses successeurs l'ont complètement bousillé. Et au lieu de remettre en cause la première rupture, en disant, quand tu commences à casser un maillon, tu casses tout le reste. Parce que c'est ça l'expérience historique. Aujourd'hui, vous voyez que toutes les hérésies sont arrivées finalement à découdre complètement le credo. Le seul endroit où est restée la cohérence totale, en dehors des orthodoxes qui l'ont avec nous en grande partie, c'est l'Église catholique. Parce que dès que vous enlevez un maillon, l'autre s'en va. Et comme le principe, c'est ma relation à la Bible interprétée moi personnellement, eh bien ça n'en finit jamais. C'est pourquoi on est arrivé fin 19e, début 20e, au rationalisme introduit par Arnac et d'autres, et le rationalisme qui a créé le modernisme chez les catholiques. À savoir, c'est que tout est faux depuis le début. Même Saint-Pierre et Saint-Paul sont gourés. Donc il y a Arnac qui a raison. Arnac et Loisy et les autres connards du même, la même farine, hein. Les autres salauds qui nous ont tout foutu en l'air, qui étaient des types doués. Hein. Loisy était un type humainement, il a respecté ses vœux jusqu'à... Sur sa tombe, il y a marqué « Voti con post », c'est-à-dire « J'ai respecté mon vœu jusqu'au bout ». Donc c'était vraiment un esprit complètement tordu, mais c'était un homme moralement... chapeau, hein. Mais c'est des esprits faux. C'est des mecs dangereux parce que et ces types-là ont fini par tout casser. Ils ont vu que c'était logique. Si on n'admet pas la succession apostolique, eh bien, en fond, Christ est un imposteur. Et c'est ce que pensent les rationalistes. Ou du moins, c'est un mythe, si vous voulez. Et là, c'est plus cool parce que là, dans un mythe, tu dis ce que tu veux, quoi. Or, Saint-Pierre dit exactement le contraire. Le christianisme, c'est pas un mythe. Voilà. Donc, chez les protestants, il n'y a pas de principe d'unité. Il n'y a pas de principe d'unité parce que c'est une adhésion interne. Le principe d'unité, c'est mon rapport à l'écriture. Et voilà, sauf que je dis une chose au moins différente des catholiques. Voilà. Les orientaux dissidents, on en a parlé, mais par comparaison donc aux orientaux dissidents, parce qu'il y a les orientaux catholiques, hein, et aux protestants, l'unité catholique est quand même remarquable. Oui, ça, je pense qu'il faut insister pour se remonter un peu la pêche quand on a le moral qui descend en dessous des chaussettes, hein, ce qui peut parfois peut-être vous arriver, enfin, bien que vous soyez jeune, mais quand vous aurez dépassé 40 ans, ça risque de vous arriver. Hein. On est d'accord. Bon. Donc, mais il faut se remonter le moral un peu, mais pas en se shootant avec du LSD ou je crois quelle est la drogue actuelle la moins chère, ou en fumant son joint, qui sera bientôt peut-être banalisé. Mais non, il faut se consoler avec le réel. C'est la fête de la grâce de la Pentecôte. Hein. Consolez-vous avec le réel. C'est ça le christianisme, c'est une consolation dans le réel. Normalement, quand on se console, on pense à autre chose, on fait autre chose et on attend autre chose. Hein. Dans le christianisme, bah, on peut rester dans la même chose et faire la même chose, mais mieux. Et attendre la même chose qu'on a déjà, qui est le ciel qui est dans notre cœur. Bon. Donc c'est super génial. Quoi, voilà. Mais alors, l'unité catholique, elle est quand même absolument abasourdissante. Quoi. Surtout si, moi je suis un petit peu, enfin j'ai fait une thèse là, ici, là, 417 pages, hein, bon, de métaphysique pure. Hein, donc, je ne sais pas comment je n'ai pas pété les plombs, mais bon, je l'ai fait. Et quand je l'ai relu 50 fois, j'ai compris. Donc ça doit être assez sûr. Avec un peu de mal, mais enfin non. Parce que les thésards, c'est maladif. Hein. C'est pour ça qu'on a supprimé la thèse d'État, il y avait trop de divorces et trop de suicides. Quoi. C'est ce qu'on m'a dit un thésard, qui lui il a peut-être sa thèse d'État, mais il n'est pas divorcé. Bon, mais c'est vrai, 20 ans dans un truc, on pète les plombs. Enfin, moi j'ai passé 6 ans, ça m'a suffi. Et donc, si vous voulez, dans un domaine métaphysique, on donne des trucs qui sont devant nous, l'être. Comment est-ce que j'atteins? Est-ce que j'atteins l'être, oui ou merde? Enfin, bon, c'est pas ce qu'on dit à l'académie, mais bon. Oui ou non? Comment je l'atteins, etc. Bon. Même chez les tout le monde discute, il n'y a pas deux types qui sont ici d'accord sur la définition de la personne, de la substance, de l'essence et de l'existence. Hein. Même chez les existentialistes. Entre Sartre et Camus, vous avez des nuances. Bon. Eh bien, il y a 1 100 000 types. Enfin, défalqué, les mecs qui ne sont pas vraiment catholiques. Sûrement, il y a 1 100 000 catholiques, 100 millions de catholiques. Enfin, ouais, chose comme ça. Bon, si l'univers pontifical est juste, bon, mais. Puis il y a ceux qui ne sont pas vraiment d'accord. Enfin, il y a quand même plein de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le luxe d'être hypocrites, quoi. Les Occidentaux, nous, on a, mais beaucoup de gens, ils sont ce qu'ils sont, quoi. C'est une leçon pour nous aussi. Il ne faut pas juger tout au travers du nombril du café de Flore, là où était Sartre et compagnie. On n'est pas l'axe d'épaule ici à Paris, hein. Ni même dans l'Occident décadent et dynamique aussi quand même. Bon. Mais disons, il y a 1 milliard de mecs qui disent il y a une essence et 3 personnes pour la Trinité, et il y a 2 natures et 1 personne pour le Christ. Et qui après déroule un chapelet de vérité, mais absolument hallucinante au point de vue métaphysique. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je ne veux pas vous faire trop peur, vous n'êtes pas catho. Alors quand même, on veut quand même être catho. Ça m'ennuiera un peu, il fait quand même assez chaud en enfer, je ne sais pas trop y être. Si vous quittez volontairement un truc que vous savez être révélé par Dieu, vous êtes hérétique, c'est pire que de coucher avec 36 bonnes femmes dans tous les sens qui ne sont pas les vôtres, etc. Il ne faut pas l'oublier non plus, hein, parce que bon. Non, mais je ne suis pas pour le vice. Hein. Je fais plutôt de la pub pour la vertu professionnelle. Mais bon, donc, attendez, il y a 1 milliard de gens, mettez un peu moins si vous voulez, mais des centaines de millions de gens qui adhèrent aux vérités les plus difficiles. Mais c'est incroyable, c'est l'unité catholique, quoi. Et en plus, bien sûr, on a des salauds chez nous, on en a même une bonne pelletée. Et ils sont plus graves que les autres, hein, comme ils étaient graves, toi. Les jeunes, ils ont raison de dire, enfin non, ils ont pas mal de français. Mais on a raison de dire que les péchés faits par un catholique, ou par un prêtre, ou par un évêque, le même péché est plus grave qu'un gars qui n'est pas évêque, qui n'est pas prêtre, qui n'est pas catholique. Donc les types qui me disent le catholicisme, c'est un truc pour se bercer de consolation, c'est un aspect de la chose. Hein. Il y a aussi le fait qu'on va être jugé, la noblesse oblige. Hein. Bon, alors. Bon, eh bien, ces gars-là, bien sûr, on a toute une palanquée, je ne le nie pas. En commençant ces 3 conférences, j'ai dit, je vois et j'admets, et je connais certainement plus que vous, le mal qu'il y a chez les hommes d'église. Eh bien, ce qu'il y a d'étonnant, je vous ai mis une citation, j'ai peut-être recopié dans le résumé, une citation de Marie Carré, qui est dit, bon, évidemment, il y a des papes scandaleux, bon, il y a des évêques scandaleux encore plus, des prêtres scandaleux, on le sait bien, etc. Mais il n'y a pas que qui sont scandaleux, la pluralité nous le rappelle, hein. Bon. Et puis même la densité des scandaleux est probablement moins grosse. Enfin, comme c'est plus grave, c'est un beau batch, quoi. Enfin, de toute façon, c'est pas sur ce point-là que je me situe. Mais pour la démonstration ici, enfin, du moins la démonstration, l'induction, on est sur un chemin, quoi. On ne veut pas vous obliger, voilà, etc. Mais donc, elle dit, on connaît 3 papes dont la vie privée fut un vrai scandale. Mais ce qui est un vrai miracle, c'est qu'aucun d'eux n'a utilisé sa papauté pour justifier son péché. Par exemple, dit-elle, ça j'ai pas mis parce que j'avais pas assez de place, même encore 10. Aucun n'a dit, par exemple, les prêtres peuvent se marier, le divorce est permis, la confession est inutile, la pénitence ne sert à rien, la foi seule suffit. Ces 5 affirmations sont des thèses fondamentales de Luther. Luther était un grand génie. Hein. Et pour justifier, sans doute, sa crise existentielle, à lui, au lieu de dire, ben, je suis dans la merde et j'ai tort, bon, et je vais me convertir, etc., enfin, j'espère pouvoir me convertir, il a dit, c'est ça, gna 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 gna, voilà. Eh bien, imaginez que des papes un peu foireux, il y en a eu quelques-uns, pas une grosse densité. C'est assez étonnant, d'ailleurs, pour voir que la succession des papes est quand même assez impressionnante. Hein. Surtout les derniers, ils sont assez propres, hein. Ils sont quand même assez performants. Quoi. Bon. Je crois que ça tient au fait que le monde actuel a besoin aussi de leaders comme ça. Mais même si vous allez loin, il y a eu des papes assez débiles et tout, mais il y en a eu beaucoup de tout à fait remarquables. Hein. Eh bien, même les salauds n'ont pas dit, bah attends, je peux me marier. Il y a quelques-uns, mais des enfants naturels. Où je peux, on va changer un peu le dogme. Ah, vous me dites, bah heureusement, merde alors. Heureusement que le pape n'a pas fait ça. Ben attends, qu'est-ce qu'a fait Mohammed? Qu'est-ce qu'a fait Mahomet? Entre les versets de la Mecque et les versets qui descendent, soi-disant. Ben, ils sont descendus en fonction des besoins de la vie du prophète. Pas uniquement en fonction d'impératifs dogmatiques. Hein. Et sûrement, ces gros débats des théologiens musulmans, verset abrogeant, verset abrogé, en fonction de ses besoins matrimoniaux, si j'ose dire. Mais j'hésite à employer ce mot parce que le mariage est une belle chose. Ses besoins sexuels, si vous voulez, il a quand même dit des choses, il a prétendu révéler des choses. Enfin, on n'a jamais vu un seul pape catholique faire ça. Quoi. Il y a 1 ou 2 qui ont flanché, et je veux vous dire qu'ils ont eu des problèmes, hein, Honorius et quelques autres. Hein. et qui ont favorisé l'hérésie. Je crois qu'il y a deux, trois papes qui ont favorisé l'hérésie. Ben, ils ont eu quelques problèmes avec les évêques, les abbés et tout. Hein. Il y a un pape qui a cédé, parce qu'il y a aussi la pression, on a la pression des médias, bon, on a toutes sortes de choses. Les papes, à l'époque, ils avaient la pression de l'empereur, des seigneurs temporels, etc. Et puis c'était des pressions physiques, hein, avec des guerres et compagnie. Il y a un pape qui a cédé sur l'institution par la crosse et l'anneau, qui a semblé admettre que l'empereur pouvait instituer les évêques au plan spirituel en les désignant dans l'institution par la crosse et l'anneau. C'est un bazar pas possible dans l'Église, et par exemple l'abbé du Mont-Cassin lui a dit, parce qu'il a fini par se rétracter, « Heureusement que tu as rétracté ce privilège, car il est hérétique, ce prétendu privilège. » Et je crois que ça ne s'est jamais passé. C'est assez curieux, vous voyez, c'était un pape, il y a Napoléon qui emmerdait, enfin qui embêtait un pape dont il voulait obtenir des choses pour le concordat, etc., ce qui est devenu le concordat, il faisait des pressions épouvantables à la Napoléon, un comédiante, tragédiante, donc le cirque absolu, il était assez bon pour ça. Et le pape lui a dit, écoutez, je peux vous céder mes droits, mais je ne peux pas vous céder mes devoirs. Je peux vous céder mes droits, mais pas mes devoirs. Et c'est quand même assez beau. Hein. Il y a même des exemples chez des gens que j'aime pas, comme Paul VI, enfin bon, je vous le dis, entre nous, hein. C'est une conversation de café gâté, mais Paul VI a promulgué de façon tout à fait claire, enfin une encyclique sur une lettre fondamentale sur la transmission humaine de la vie, qui s'appelle Humanae Vitae, contre son sentiment de théologien privé. Après 4 ans d'études, pour essayer que ce ne soit pas ça. Et quand on lui a dit, mais pourquoi vous dites ça alors que vous n'êtes pas d'accord, il a dit, je suis d'accord avec vous comme théologien, mais je ne suis pas plutôt affirmé ce qu'a dit Pion dans Cassiconubi, etc. Et donc, pour moi, c'est absolument magnifique. Il y a quand même une sorte de miracle, c'est de continuité. Quoi. Il n'y a pas de contradiction. Enfin, si vous en croyez qu'il y en a une, faites une thèse, et on en discutera, et on verra. Quoi. Mais je vous assure que moi, j'ai essayé de le faire, ça ne marche pas. Ça serait trop long de vous raconter comment, mais voilà. Donc, vous voyez, même quand il y a un abus, si vous voulez, il y a des abus terribles dans l'Église, il y en a eu, il y en a encore, eh bien, finalement, le noyau dur de la foi voilà, demeure. Donc, il y a une unité qui est exceptionnelle. Ensuite, il y a une catholicité qui est impressionnante, plus que celle des autres églises chrétiennes. Hein. Parce qu'évidemment, la catholicité, c'est un mot grec qui signifie être réparti dans l'ensemble, hein, catholon, hein, donc de façon harmonieuse. Il y a une idée d'harmonie dans la catholicité. Voilà, c'est pas une simple addition, c'est une répartition harmonieuse dans l'ensemble des choses. C'est la répartition de l'Église du Christ dans tous les pays et dans toutes les conditions. Ça, c'est très important. Très, très important. C'est pas seulement géographique, c'est aussi les tempéraments, les cultures, les races, les langues, etc. Voilà. Alors, il est clair, d'après l'Évangile, que la religion chrétienne est catholique. Elle est catholique. C'est-à-dire qu'elle est destinée à tout le monde. La religion juive était pour les descendants d'Abraham. Les prosélytes avaient un statut à part. Et puis voilà. Mais la religion catholique est catholique par définition. Et quand on lit, je vous ai sur le texte complet, vous verrez les renvois au Nouveau Testament. Donc voilà, où se trouve une religion, une structure qui répond au désir de catholicité du Christ? Eh bien, elle se trouve dans l'Église plus qu'ailleurs. Dans l'Église catholique romaine, dans l'Église romaine plus qu'ailleurs. Parce que dans l'Église romaine, vous avez un principe d'unité dans la diversité qui, moi, m'a toujours sidéré. Voyez. C'est-à-dire que vous avez une unité avec le maximum de diversité. Au point de vue linguistique, au point de vue racial, vous voyez, c'est quand même impressionnant. Enfin, non. C'est Pion qui a fait les premiers, le sac des premiers évêques asiatiques, en particulier les Vietnamiens. Il avait un pape extraordinaire au point de vue des missions, Pion. C'était très émouvant dans les années 1920. L'Église, en général, est en avance de 10, 20 à 60 ans sur les grandes soi-disant découvertes au point de vue humanitaire et solidaire, etc. Et on a promu très vite, et dès le 15e siècle, et même avant, au 12e siècle, les missionnaires dominicains et franciscains promouvaient un épiscopat, enfin d'abord un clergé, et ensuite un épiscopat syriaque, melkite, etc. Un épiscopat oriental de gens de souche, si vous voulez. Mais c'était une révolution, ça. C'était extrêmement bon, dans l'esprit de la chrétienté de l'époque. Mais il y a une capacité d'unité dans la diversité. Pourquoi? Ben parce qu'on a un magistère, vous voyez. L'Église a un magistère, c'est-à-dire qu'il y a le pape et les évêques qui nous transmettent avec sécurité la parole du Christ dans les linéaments fondamentaux et toutes les vérités naturelles. Et c'est le seul. Voilà, c'est le seul. Alors là, il faut être assez radical. Toutes les vérités surnaturelles approfondies, parce que les orthodoxes les transmettent aussi, mais ils les bloquent, vous voyez. Ils les bloquent et du coup, ils ont des problèmes. Je parlais récemment avec l'un d'entre eux qui avait un peu étudié ça. Il m'a dit, on a gratté des manuscrits anciens qui, en fait, prouvent que les pères orientaux admettait, comme les Occidentaux, le filioque, le fils procède du père. En un sens à préciser, mais il procède. Donc on arrive à des blocages. Pourquoi ? Parce que pour eux, les sept premiers conciles jusqu'en 700 et quelques sont tellement sacrés qu'après, l'intelligence ne peut pas progresser. Alors ça commence à bouger, parce que, bon, pour des raisons que je vous dirai après. Mais donc c'est très intéressant de voir que les catholiques, eux, ils ont un magistère qui peut dire, voilà, tel problème se pose, est-ce que c'est conforme ou non à l'Évangile ? Oui. Est-ce que la Sainte Vierge est immaculée dans un sens strict, propre, etc., préservée du péché ? Est-ce que c'est conforme à pleine de grâce ou pas ? Alors, avec le temps, avec le magistère, avec les théologiens, mais avec vous aussi, c'est ça qui est très important, vous voyez, avec, avec la vie religieuse, soit les religieux sont souvent... Pourquoi ? Parce que les vérités des hommes ont besoin d'être incubées. C'est comme dans la science, hein. J'ai remarqué, d'ailleurs, je mets ça dans ma thèse de 97 pages, que parfois les vérités scientifiques sortent en même temps à deux ou trois endroits complètement déconnectés. Il y a des exemples célèbres pour le fameux The Big Bang, mais il y en a d'autres aussi. Complètement déconnectés parce que l'ambiance culturelle de la communauté scientifique internationale depuis très très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense, fait que les choses sont mûres et il y a un ou deux génies qui en même temps sortent ce que la nature humaine a déjà préparé. Ça, je crois que c'est tout à fait fondamental. Le travail intellectuel est solidaire, quoi. Et bien dans l'Église, on a un organe du travail commun, des fidèles, de ces Espagnols qui faisaient le vœu du sang pour que l'Immaculée Conception soit définie, alors que saint Thomas d'Aquin se bourrait là-dessus. Non, mais les fidèles ont eu raison. Saint Thomas d'Aquin, pour que je vous dise ça, c'est que vraiment, voilà. Et mais c'est magnifique la catholicité, vous voyez, on prend son temps, mais les choses finissent par mûrir, et avec tout ça, le magistère tranche, et on a donc une catholicité qui permet d'intégrer les aspects variés. Alors en fait, il y a deux témoignages que je vous ai mis. Je crois que j'ai mis le témoignage du catholique et le témoignage... Ouais, j'ai dû mettre le témoignage, c'est ça, du père de Poulpiquet, qui est un dominicain thomiste, malheureusement mort à la guerre de 14, et puis de Harnack, Adolf von Harnack, qui est un grand génie rationaliste qui a tout cassé. Et tous les deux disent la même chose. Ils disent la doctrine catholique est celle des apôtres, et elle est variée. Quoi, elle correspond, elle permet d'exaucer les besoins profonds de chacun selon sa tendance. C'est-à-dire que quelques-uns seront plus inclinés vers tel aspect, et bon, ils trouveront leur place dans l'Église, et tel autre. Voilà, ça permet d'exaucer l'ensemble des choses. Pourquoi ? Parce que je crois que le catholicisme voit vers le fond. Vous voyez, le catholicisme ordonne tout autour de la Trinité, l'incarnation, et après ce qui rayonne à partir de là, la vie chrétienne, les sacrements, on parlera la prochaine fois, les sacramentaux et tous les détails après. Mais il y a un ordre, vous voyez, tout à fait fondamental. C'est pourquoi il faut pousser vos prêtres à prêcher la Trinité et l'Incarnation. Tout le reste, ça dérive. C'est toutefois aussi, mais bon, voilà. Et donc tout ça, là, dans le christianisme, avec une unité, moi qui m'a toujours sidéré, la complexité riche, si vous voulez, et compréhensible du dogme catholique. Après, il y a la morale. La morale chrétienne, en fait, n'est pleinement sauvegardée que dans le magistère catholique. Même, voyez, les orientaux admettent le divorce par économie, par miséricorde, si vous voulez, mais je crois que c'est vraiment contraire à l'Évangile. Enfin, moi, ça me paraît absolument contraire au texte révélé. Et en fait, dans le christianisme catholique seul, vous trouvez l'affirmation de toutes les vérités naturelles, l'approfondissement des vérités surnaturelles, et une morale qui est à la fois contemplative et active. Je vous avais cité les deux sources de Bergson, hein. C'est un texte très important, que vous pouvez lire, parce que c'est qu'en très bon français, ce qui est surprenant pour un philosophe. C'est pour ça qu'il avait du monde, hein. Quand il enseignait à la Sorbonne au Collège de France, les gens, les témoignages que nous avons des leçons de Bergson, c'est Massis qui disait à Pacelli, Bergson nous a sorti du rationalisme pour nous amener au spiritualisme, et Maurras nous a sorti de Bergson pour nous amener à saint Thomas d'Aquin. C'est impressionnant. C'est dans De l'homme à Dieu d'Henri Massis. Donc, je ne suis pas très maurassien, mais c'est un fait historique à enregistrer. En tout cas, Bergson a joué un rôle très important parce que vous imaginez pas, peut-être que vous vous emmerdez dans vos facs, mais vous imaginez pas, en philo, en lettres et tout, de ce que ça pouvait être à la fin du 19e. C'était à mourir, c'était épouvantable. Tous les témoignages qu'on a, Bergson est arrivé comme une libération, il a dit « l'esprit existe ». Quoi. Parce que le scientifique de cette époque-là, mais c'était un truc mais super, super bétonné, vraiment absolument imbuvable. Voilà. Or, justement, Bergson, donc qui est intellectuellement, il est mort catholique. Il a demandé à un prêtre à prier à son enterrement. Il était juif, personne. On lui a interdit d'enseigner, c'est malin. On a interdit d'enseigner à Simone Veil et à Henri Bergson. C'est pas ce qu'un certain gouvernement a fait de mieux. Hein. Excusez-moi, mais comme connerie, ça se pose un peu là. Enfin, il a demandé un prêtre à sa mort. Et Bergson, vous voyez, il étudie les morales. Enfin, c'est vraiment Bergson, c'est très fluent. Quoi. C'est l'éloge du dynamisme, de la vie, du vitalisme et tout. Il y a des choses fausses dans Bergson. Mais c'est fascinant. Et il dit, quelle est la vraie mystique? Les vrais mystiques sont les mystiques chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils associent la contemplation à l'action. La mystique bouddhiste, qui arrive le plus proche, si vous voulez, rate ce passage à l'action. Du moins, ne l'intègre pas harmoniquement avec la contemplation. Et c'est vrai. Et par contre, les mystiques chrétiens, qu'est-ce qu'ils donnent comme exemple? Alors, sous le texte complet, j'ai mis les exemples que donne Bergson. Il donne Saint Paul, Sainte Thérèse d'Avila, la Madre, qui était un peu catholique sur les bords, en bonne castillane. Sainte Catherine de Sienne, ce père dominicaine à injection électronique. Saint François d'Assise et Sainte Jeanne d'Arc. Excusez-moi, il n'y a que des catholiques. Mais comme disait Marie Carré, montrez-moi en 5 siècles de protestantisme un saint machin, Saint Vincent de Paul, etc. Montrez-moi dans le protestantisme l'équivalent d'un curé d'Ars. Pourquoi Luther aurait-il raison contre Saint Paul, Sainte Thérèse, ce curé d'Ars, etc. J'ai vu beaucoup de choses merveilleuses dans le protestantisme. Je n'ai vu ni la sainteté, ni les miracles, ni l'héroïsme. Pourtant, on a vu beaucoup d'âmes grandes et pieuses. Serait-ce, Seigneur, que vous aimez les protestants car vous aimez tous les hommes et que vous n'aimez que l'Église, comme l'Église et l'Église catholique, c'est votre Église. C'est magnifique, ce passage de Marie Carré. En plus, elle est assez poète, donc ça coule. Hein. C'est un livre à offrir pour ses 20 ans de mariage à votre confrère protestant. Bah oui. Mais il faut être un peu apôtre. Bonsoir. Si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être rencontré des types qui avaient la foi. Bon, je sais pas. Enfin, la pêche aussi, la pêche pleine de foi. Bon. Donc la morale chrétienne. Ensuite, le gouvernement. Évidemment, le gouvernement chrétien, catholique, a un avantage, c'est qu'il n'est pas national. Il n'est ni national ni international, il est supranational. Alors que chez les protestants, il n'y a pas de gouvernement tout court. Chez les protestants épiscopaliens, anglicans ou scandinaves, il y a des églises nationales. Et même dans certains pays, il y a peu de temps, c'est peut-être le cas encore, c'est un pays scandinave, quand on est de la religion, automatiquement, à moins de déclaration contraire, on est automatiquement membre de l'église d'État. Bon, donc, ce n'est pas des églises catholiques, puisqu'elles sont églises dont le chef suprême est le roi ou la reine ou le parlement, etc. Alors, beaucoup de protestants sont revenus de ça, mais le principe demeure, une nationalité. Et chez les orientaux, le gros problème, c'est que, avec un peu l'exagération du rôle du Basileus, donc de Constantin, ses successeurs, puis du tsar, dont on a prétendu qu'il prenait la succession mystique. Je ne sais pas si vous avez lu, moi j'aime beaucoup les Russes, hein, donc je lis des textes. Mais pour le tsar, vraiment, c'est une personne qui est dans le cœur, enfin dans les offices, et il était le chef, surtout à partir du moment où ils ont supprimé le patriarche, qui a été restauré pour des raisons assez équivoques par les soviets. Mais donc il était le chef de l'église. Et donc c'est une église russe, quoi. Donc, je suis désolé, il manque un élément pour la catholicité. Et l'Église catholique a une hiérarchie. Alors, Poul Piquet a une chose assez belle, il dit, en fait, vous voyez, plus un organisme est évolué, les organismes très primitifs, on peut les couper en deux, vous coupez un ver de terre, ça fait deux vers de terre. Si vous coupez un homme en deux, enfin, au moins par le milieu, ça n'en fait pas deux, quoi. Et vous voyez, la complexité, la catholicité, c'est une unité dans une complexité croissante. Et donc, il y a une certaine... c'est très beau de penser à ça. Et je crois que l'unité catholique, moi, ça me frappe beaucoup, parce que je suis un petit peu anticonformiste, enfin, vous l'avez peut-être senti pour les anciens, bon. Et j'aime bien, parce que dans l'Église, il y a une maison pour tout le monde. Vous voyez, même pour les anarchistes, enfin, recyclés un petit peu, quoi, comme je suis, mais il y a une maison pour tout le monde. C'est vraiment assez extraordinaire. Il y a des diocèses différents, il y a des ordres religieux différents, il y a des spiritualités différentes, et on est comme tous unis, et on ne cherche pas la petite bête, si vous voulez. Ça, c'est dans les contacts avec les communistes, ça me frappait, parce qu'en fac, j'avais des... l'ami de mon année de fac, l'année où je me suis converti, était délégué communiste de mon année, quoi. Mais c'était un homme par rapport aux petits bourgeois débiles et technocrates qui étaient les autres qui étaient là. Donc on discutait volontiers. Mais ce qui me frappait, c'est que pour lui, le critère de vérité, c'était la Pravda, enfin l'humanité, quoi. Qu'il disait sur la ligne de Sourd. Et il disait ce truc-là, et il me sortait le truc qui allait dans la Pravda locale, enfin l'humanité. Et la vérité, demain, bon, si Thorez ou machin, ou le truc marchait, c'est un scandale et tout, donc change et tout. Alors, c'est une autre vérité. La vérité, c'est le mensonge successif. Enfin, Sonnitzin a très bien analysé ça. Et ça surprend les gens, vous voyez, quand on leur dit, mais non, par exemple, nous, on a résisté pour aller à la messe 5 Pie 5. Hein. Moi, je fais partie de la génération un peu des gars qui ont été dans les caves pour dire, attendez, Pie V, ça ne peut pas disparaître, un Pie V forever, quoi. Bon. Et alors, on dit, ah, vous êtes des schismatiques, machin, tout bidule et tout. Bon, c'est vrai que moi, j'ai un peu dérapé un peu loin, je suis d'accord, et donc, mais je me suis confessé, rassurez-vous. Et j'ai rétracté ce qu'il y avait de faux dans ma position. Mais comme tous n'ont pas des dévissés, par exemple, Pont-Calais n'a pas dévissé, d'autres, on a dit, enfin, les sœurs n'ont pas dit merde parce qu'elles sont tellement bonnes en français. Elles disent pas ça, et quand je le dis, elles me reprochent, mais bon. Mais on a dit non. Et est-ce qu'on était non-catholique ? Parce que le pape vient de faire un texte il y a 3 ans où il a dit la messe Saint-Pie V a toujours été légalement autorisée. Donc vous voyez, ça surprend. C'est pas pour s'amuser à faire de la dissidence. Je suis un petit groupe qui fait à part des autres. Non, il vaut mieux être un groupe cohérent qui n'ait pas trop de crise. Mais attendez, l'église catholique, c'est pas ça. C'est pas un truc où il y a le mec qui décide, le dernier bulletin de la Pravda, le dernier, vous savez quand. Moi j'ai connu la période des soviétologues. On m'a regardé la place au défilé de la place rouge du 1er mai, qui était le premier dans les rangs. Ça permettait d'inférer la politique pour 2 ans. De l'Union soviétique en fonction de la place, ils avaient des trônes épouvantables. C'est des mecs qui battaient des types à 1 million de gens. Hein. Et c'est des mecs, alors regardez, c'était eux qui déterminaient la vérité. Enfin, dans l'Église catholique, c'est pas ça. Hein. Il y a une vérité, et puis il y a des gens, quelquefois, qui disent au pape, ben, il y a un problème. Quoi. Et moi, je regrette que ce soit quelquefois que les types de gauche qui disent ça. Parce que les papes et les évêques ont besoin aussi qu'il y ait des gens plus classiques, disons, qui leur disent, il y a un petit chemin de blic par là. On va vous. Enfin, les gens disent, ah, mais vous êtes orgueilleux, vous prenez pour un prophète. Ben non, mais attendez, 2 plus 2, ça fait toujours 4, même si vous êtes papa. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à dire des trucs que nous on dit depuis 40 ans, mais quelquefois, je trouve qu'ils le disent d'une façon excessive et irrationnelle. Du moment, maintenant que l'autorité a libéré la parole, c'est le problème quand on gagne. Quoi. Il y a toujours des gars un peu trouillards qui arrivent. Et du coup, ils sont tellement réprimés pendant 50 ans qu'ils disent des trucs, à mon avis, excessifs. Quoi. Enfin bon, on se marre bien. L'Église catholique, ça bouge, quoi. Ouais. Et quand on se tape plus dessus publiquement, comme autrefois entre jésuites et dominicains, j'aime beaucoup les jésuites. Hein. Marie Carré, quand j'étais petit, je m'étais dit, adolescent, oui, je vais être jésuite. Pourquoi ? Parce que je voulais être prêtre et religieux. Et en même temps, je voulais faire de l'astronomie et être missionnaire. Donc ça, c'est l'équation jésuite. Quoi. Astronome, missionnaire, religieux, prêtre, c'est bon. Bon, heureusement, je n'étais pas devenu jésuite. Mais Marie Carré dit la haine contre la compagnie de Jésus est une des formes de la haine du catholicisme. Et je crois qu'historiquement, c'est vrai. Mais vous voyez, je n'ai pas le look jésuite et je ne suis pas trop pour... Si vous me mettez dans la compagnie, je meurs en 3 semaines à peu près. Quoi. Ou à l'Opus Dei, où j'ai plein de copains. Si vous me mettez dedans, je meurs en 3 semaines. Mais si on me dit c'est une secte, je dis c'est faux, c'est des catholiques. Et c'est ça qui est super bien. C'est pas tandis que moi, je voyais les bagarres à la sortie du resto. Enfin, vous êtes peut-être plus de bagarres pour d'autres motifs plus bas. Mais à la sortie du resto, entre les trotskistes, les Maus Pontex, les spontanéistes, les situationnistes, les orthodoxes, c'était ceux qui venaient avec les gros bras de la CGT qui cassaient tout, et donc la force on mettait à travailler. J'étais orsay, donc ça dépotait, mais ils se cassaient, mais ils se haïssaient, quoi. Ils se haïssaient, quoi. On les voyait pas sur le tatami de karaté, donc nous, on était tranquilles, mais ils se haïssaient, ces mecs. C'était incroyable, j'étais surpris. Je les voyais qui s'injuriaient, si vous voulez. C'était hallucinant, quoi. Dans l'Église catholique, si vous voulez, on peut pas dire comme les dominicains, les jésuites se haïssent, quoi. On s'envoie des petites gentillesses. Voilà. Donc, il y a une catholicité de droit à cause du magistère, de la morale, du gouvernement et du culte. Le culte, quand même, vous voyez, le culte, c'est magnifique parce que le culte eucharistique, vous voyez, tous les sacrements, on le verra l'année prochaine, rayonnent autour de la messe. La messe, c'est tout un ensemble de petits morceaux, etc., qui ont fait le pain et toutes les raisins qui ont fait le vin. C'est un peu le symbole de l'unité. Et la messe rayonne l'unité dans l'Église. Quand vous communiez, la grâce propre de la communion, c'est l'unité de Dieu. Voilà. Et ça, on a ça, bon, chez les orthodoxes et chez les catholiques. Mais les protestants n'ont pas. Et c'est curieux parce que pas mal de conversions de protestants comportent une phase d'entrée dans les églises. Je rentrais dans l'église, je ne savais pas pourquoi. J'y rentrais pas toujours pour prier, mais j'étais bien, je me reposais. Et que dans quelque église que je sois rentré, que ce fût une magnifique cathédrale, une petite chapelle dégoûtante de mauvais goût sulpicien, je sentais qu'il y avait quelque chose, quelqu'un. Donc c'est impressionnant de voir qu'elle a raison, parce que Marie Carré a beaucoup raisonné, mais il y a également le rayonnement de la présence. Je crois que c'est très important, ça. Le côté eucharistique des conversions, Foucault, c'était eucharistique. Foucault rentrait dans les églises, s'asseyait, et il était là, voilà. Bon, donc il y a la catholicité de droit, mais catholicité aussi de fait. C'est-à-dire, il y a une catholicité de fait. Si on regarde autour de nous, bon, ben l'Église catholique est partout. C'est une diffusion, et pas physiquement universelle, bien sûr. Quoique maintenant, je pense que depuis 1924 ou un peu après, les dernières peuplades qui n'avaient pas vu de missionnaires catholiques les ont vues. Les Lapons ou d'autres, enfin peut-être encore un peu après. Mais bon, mais disons, c'est moralement universel. On peut dire que dans toute
tout ce qui est connu et atteignable physiquement par des hommes à partir du noyau de la Méditerranée, au fur et à mesure des âges, a été immédiatement atteint par des missionnaires. Dans l'espace de 10, 20 ans, enfin, que ce soit le Nouveau Monde, que ce soit l'Asie, que ce soit le toit du monde, avec les missionnaires au Blat de Marie Immaculée, ça, dans des conditions absolument extraordinaires. Donc il y a une diffusion relativement moralement universelle, parce que Jésus-Christ a bien prédit qu'il y aurait des oppositions, des zones, etc., hein, de la même société. Ça, c'est très important. Parce qu'imaginez que les protestants couvrent toute la planète. Eh bien, ça ne ferait pas la catholicité, de fait. Parce que ça ne serait pas la diffusion d'une même société visible. Puisque tous les protestants savent qu'ils ne sont pas une société. Il y a autant d'églises que de façon d'aborder l'évangile. Ouais. Donc le mot de catholique et la réalité se trouvent de façon quand même impressionnante dans l'église romaine. Alors le père Lacordaire, je vous ai mis des passages plus complets dans la page du site, la page accessible. Le père Lacordaire a une très belle conférence ici en 1845 à Notre-Dame, dans laquelle il montre que l'église catholique a réussi une tentative de diffusion universelle où tout le monde a échoué. Dans cette conférence est accessible sur un site d'internet. Mais tout le monde a échoué. Et il le montre historiquement, bon, à la façon du 19e, hein, c'est quand même assez rhétorique. Hein. Mais en gros, c'est assez fondé historiquement. Et il dit, en effet, il y a pour diffuser tout, il prend les conquérants, il prend César, il prend même l'influence du bouddhisme, etc. Il y a toujours un truc qui finit par casser à cause des obstacles, hein, la distance, la configuration, le climat, il détaille ces choses-là. Et sur la distance, il y a des passages absolument extraordinaires. C'est vrai que quand vous regardez, par exemple, l'empire assyro-babylonien, ou même les expansions de l'influence des pharaons, un peu vers la Libye et puis vers la Palestine, ou bien, encore plus, l'empire romain, grec, enfin, romain d'abord et ensuite byzantin, ça craque parce que c'est trop grand. Vous voyez, quand vous avez à vous battre contre les Écossais là-bas et contre l'équivalent des Iraniens là-bas, surtout avec des gens qui sont plus des Romains, parce qu'en fait c'est essentiellement des Gaulois, des Scythes, des gens, enfin c'est assez poilu, hein, mais avec les disciplines romaines, mais ça finit par craquer. Et en plus, malgré l'intelligence, parce que les Romains étaient des génies en droit, je crois qu'un modèle de colonisation comme ils ont fait, c'est chapeau, hein. Malgré le respect des droits locaux, ça finit par être trop compliqué. Enfin, entre les Libyens, récemment je lisais un bouquin de mon ami Mohamed Christophe qui est venu ici, qui a fait une petite étude pour montrer bien les origines berbères de Saint-Augustin. Et donc il a analysé toute cette période. Et la complexité, ne serait-ce que des dialectes berbères, le kabyle et puis les autres dialectes qui subsistent, leur proximité avec le libyque, avec le dialecte phénicien des gens de Carthage et tout, qui fait que probablement les Carthaginois et les Libyens se comprenaient. Enfin, c'est que ça, mais ça devient une complexité. Et les Romains respectaient tout ça, sauf les grandes lois de l'Empire. Mais ça finit par être compliqué. Donc la distance fait craquer les choses. Et alors Lacordaire, j'ai pas résisté sur le site, vous le verrez, à un passage. Lacordaire parle en 1845. Donc dans les gens qui l'écoutent, il y a des rescapés de la Grande Armée, quoi. Et alors il montre comment, en fait, Napoléon a été vaincu par l'espace. Et alors on peut appliquer ça à un autre avec une moustache un peu après, et qui aussi a été vaincu par le même espace. Et alors, moi je vous lis le passage, c'est un peu court. Longtemps le dernier des capitaines, là on est en 1845, hein, donc c'est pas très gentil pour les grands capitaines qui ont conquis l'Algérie, mais enfin, le dernier des capitaines avait rivé le sort à sa volonté. Et c'est comme du français, hein, c'est pas du Bossuet, mais quand même l'accordait. Les Alpes et les Pyrénées avaient tremblé sous lui. C'est vrai que les Espagnols gardent un mauvais souvenir, hein, je peux vous le dire. Le dos de Mayo, nous les petits Français qui habitions l'Espagne, ne disaient pas qu'on était Français. Hein, parce qu'il y a eu des massacres sur le. Bon, alors là, l'Europe en silence écoutait le bruit de sa pensée. Ouais, c'est très 19e. L'Europe en silence écoutait le bruit de sa pensée. Lorsque, là de ce domaine où la gloire avait épuisé toutes ses ressources pour lui complaire, c'est vrai que Napoléon, bon, il fascine encore beaucoup de gens, parti à juste titre, il se précipita jusqu'aux confins de l'Asie. Donc attaque des Russes, quoi. Là, son regard se troubla et ses aigles tournèrent la tête pour la première fois. Il prend une veste, hein, bon, en français moderne. Hein. Qu'avait-il donc rencontré? Alors, il y a une série d'interrogations, trois interrogations, trois négations et après trois affirmations. Hein. Donc, c'était quand même, mais bon, il avait lu quelques livres quoi, avant de prêcher. Hein. Qu'avait-il donc rencontré? Était-ce un général plus habile que lui? Puis ça fait plaisir aux Français, quoi. Généraux plus habiles que Napoléon. Certains pensent que Franco, j'ai lu un bouquin récemment sur lui par un anti-franquiste.
c'est peut-être le plus grand général du XXe siècle. Enfin, bon, il ne vivait pas à ce moment-là. Alors, un général plus habile que lui? Non. Une armée qu'il n'eût pas vaincue? Non. Alors, bon, les grognards devaient être contents, hein. Ou bien était-ce l'âge qui refroidissait déjà son génie? Non. Qu'avait-il donc rencontré? Alors là, le développement de la Cordère qui était fondamentalement un ami de la liberté. Hein. Bon. Il avait rencontré le protecteur des faibles, l'asile des peuples opprimés, le grand défenseur de la liberté humaine. Il avait rencontré l'espace et toute sa puissance avait failli sous ses pieds. Bon, ben Adolphe, c'était pareil. Hein. Il a rencontré l'espace et... Mais c'est vrai que... C'est, et je pense que c'est des fous. Techniquement, c'est, moi, je connais un officier, enfin, je le connais d'assez près, qui était en camp de constance de représailles au moment de l'attaque de 41. Et quand ils ont vu... Putain, il n'a pas encore fait l'école d'état-major. Le plan d'attaque de la Russie par Adolphe, il s'est dit, il va perdre. Et en fait, beaucoup de généraux classiques allemands pensaient comme les Français qui analysaient les nouvelles en les triant, en écoutant la radio clandestine. Parce que c'était une erreur. Mais c'est des types, ceux que Jupiter veut perdre, il les rend fous. Et là, c'est des mecs qui s'imaginent qu'on va mettre la pile aux Russes. Ben, bonjour, essayez-vous, les gars. Bon, alors voilà, mais c'est pour vous montrer, enfin bon, là, c'est un petit truc pour vous étendre un peu sur Adolphe et Napoléon, Bonaparte. Mais en fait, personne n'a jamais réussi, si vous voulez faire un truc. Alors que là, après, il y a un passage que je vous ai mis pour la catholicité de droit. C'est que, justement, la catholicité, il dépeint, si vous voulez, un vieillard qui est sur un trône solennel et qui gouverne 150 millions de personnes. Alors maintenant, mettez un milliard, quoi. Il parle, on l'écoute. Il dit, ceci est dans l'évangile, on dit d'accord. Il promulgue une loi, on obéit. Enfin, là, je parle des catholiques comme tels. Hein. C'est pour montrer qu'il y a, bon, des fois, des petits problèmes. Même dans l'église visible, il y a des gens qui ne sont pas vraiment catholiques, quoi. Mais enfin, bon, il faut leur dire doucement pour qu'ils se remettent du coup et leur offrir un pastis pour qu'ils redeviennent catholiques, quoi. Mais c'est quand même incroyable. Et alors, il fait remarquer une chose, il dit, et peut-être vous remarquerez une différence, que normalement, plus on est loin de l'autorité, plus on est tranquille, quoi. C'est vrai que dans les provinces les plus extrêmes, à côté des parcs, les ordres du Sénat romain étaient respectés quand on pouvait, hein. Parce qu'il y avait tellement de coutumes locales, il fallait un mois pour prendre les nouvelles, un mois pour qu'elles reviennent, bon. Et là, il dit, plus c'est loin, justement, plus les gens ont de la vénération pour le principe de l'autorité. Et c'est une chose que moi, j'ai vécue. Parce que quand on va à Rome, on s'aperçoit que les gens qui ont le plus, peut-être, une dévotion, je dirais presque sensible vis-à-vis du souverain pontife, c'est les gens du bout du monde, d'Océanie, ou qui sont dans des circonstances lointaines, difficiles et tout, et c'est le pape, c'est le principe d'unité. Alors que ceux qui sont autour de lui, ben, les Allemands n'aiment pas Ratzinger. C'est pas bien. Hein. Il y a beaucoup de Français, et moi, je me souviens, une fois, j'étais à l'aérodrome, et puis il y avait une dame, je me rends compte, elle est allemande, on commence un peu à échanger, et assez rapidement, elle commence à me taper sur le pape. Alors, elle me dit, que pensez-vous de notre pape? Je dis, ben, je le connais personnellement, je trouve qu'il est bien. Il est raide comme la justice, il est raide comme la justice. Non, mais il y a un complexe, hein, c'est très... Alors plus les gens sont prêts, mais là, dans le catholicisme, c'est quand même impressionnant, parce que vous voyez, ça montre que c'est pas uniquement de la faillotterie. Il y a des faillots, ça, je peux vous dire que dans l'église, il y a des faillots, il y en a, il y a des paquets, enfin, comme peut-être vous dans vos activités laïques, mais il y en a beaucoup. Bon, mais dans l'église, si vous voulez, c'est pas uniquement les faillots qui l'emportent. Voilà, donc elle est universelle parce qu'elle arrive aussi, je vous ai mis une citation d'Arnac et de quelques autres, elle arrive à s'adapter avec une espèce de génie, si vous voulez, impressionnant, au fond, aux différentes personnes, aux différentes personnalités, aux différentes cultures, tout en gardant son noyau dur. Et évidemment, c'est l'unité de l'un dans le multiple qui est la catholicité. Moi, personnellement, je pense qu'on a été trop loin en renonçant au latin dans l'Église latine. Je pense qu'on aurait dû garder le canon, l'offertoire en latin, et je crois qu'il faudra y revenir. Enfin, j'espère, je ne sais pas si on y reviendra, c'est pas certain. Parce que quand même, là, on avait une force pour l'unité générale. Mais enfin, toujours est-il que, malgré tout, tous les catholiques qui reconnaissent Benoît XVI sont unis dans le credo, les sacrements, le gouvernement. Et ça, c'est quand même un cas unique. Voilà. Alors maintenant, dernier point, qui est très... unité, catholicité, maintenant, il y a l'apostolicité maintenue, malgré les obstacles. Hein, c'est là, voilà. C'est un peu la prolongation de la propagation. Mais la propagation qu'on a vue il y a 3 cafés catés ou 4, ben, elle se prolonge toujours. Et ça, c'est étonnant. Joseph de Metz dit dans son livre sur le pape, hein, et déjà, je n'ai pas mis la citation dans le texte résumé, « Une maladie du protestantisme aussi ancienne que lui fut la manie de prédire la chute de la puissance pontificale. Alors régulièrement, les protestants disent qu'ils vont s'effondrer. Luther n'a fait aucune prédiction sauf celle de la chute de la, du pape. Vous voyez ? Et Voltaire et les autres de son Saint-Farine ont dit bientôt, et puis aussi au XIXe siècle, on a dit bientôt, le catholicisme va s'écrouler dans le ridicule, sous les assauts de la science rigoureuse. Et bien ces gars-là sont morts, il n'y a pas beaucoup de gens qui font leur prière à Rouette, là, à Voltaire, pas beaucoup de gens qui le prient. Et il y a beaucoup de gens qui invoquent l'intercession des confesseurs, Saint-Alphonse de Ligorie, qui ont lutté contre Voltaire. Donc nous on est là, eux ils ne sont plus là. Et à chaque fois qu'il y a une prédiction, vous allez tous disparaître, les gars, arrêt sur image, après vous faites un 50 ans après. Par exemple, moi j'ai vécu ça parce que, par exemple, le communisme, je ne suis pas très pro-communisme, contrairement à pas mal d'évêques qui se terminent leur mandat et qui l'ont bouclé et qui ont été des complices objectifs du communisme. Ils étaient fascinés comme ils sont fascinés par l'islam. C'est peut-être des gars qui ne sont pas très musclés qui sont fascinés par la force. Moi j'ai entendu ça, enfin. Le communisme est l'horizon de toutes nos sociétés, mais vous n'avez pas idée de ce que c'était, quoi. Et nous, on nous considérait comme des affreux parce que nous attendions, c'est peut-être pas inéluctable, quand même. Bon, où est le communisme ? 1917-1991, ça fait pas 75 ans. Et là où il subsiste, il n'a pas encore 75 ans, à Cuba, en Chine, au Vietnam, au Laos et en Corée. Donc, c'est pas quand même. Il y a des gens qui ont vu la chute de l'URSS et qui avaient vu le tsar, des babouchkas de 90 ans. Donc ils sont tombés. Et je suis désolé, les chrétiens orthodoxes sont là, et le pape est toujours là. Donc c'est eux qui ont pris qui ont morflé, quoi. Alors ça, faudrait peut-être que Libération et Le Monde s'en souviennent. Faire des numéros là-dessus. Alors, en mettant les titres qu'ils mettaient au moment où les communistes libéraient Phnom Penh, etc. Mais c'est tombé, c'est tombé en partie, pas totalement, mais en partie. Bon. Donc finalement, on prédit tout le temps que ça va se casser la figure. Et bien ça se casse pas la figure. Et c'est quand même un petit peu étonnant. C'est quand même un petit peu étonnant parce que j'ai pas mis sur la. Vous le trouvez dans le texte complet. Depuis 2000 ans, plus que Lacordaire qui parlait de 18 siècles, l'Église a des obstacles. Des obstacles extérieurs et des obstacles intérieurs. Et de façon constante. Alors moi j'ai mis de mémoire, sans chercher dans les bouquins, parce que la vie est quand même courte, surtout pour un plaisir, mais pour tout le monde. D'abord, opposition de la plus grande partie des Juifs. Premier siècle. Deux siècles et demi de persécution, ça on l'a vu spécialement. Contre la superstition abominable de la secte chrétienne. Hérésie du 1er au 5e siècle. Le gnosticisme, combattu par Saint Jean et Saint Irénée. L'arianisme, combattu par Saint Athanase. Le monophysisme, le nestorianisme. Bon. Ensuite, trois siècles d'invasion barbare. Une fois que l'Empire est passé chrétien, trois siècles de mecs super pollus qui tuaient tout le monde. Il faut quand même voir un peu ce que c'était. Les matrones décadentes disaient quand est-ce que commencent les viols. C'était comme ça. Il faut voir un peu l'état de la romanité. Au moment où ça a été envahi par les poilus, quoi, parce qu'ils étaient un peu plus musclés. Et comme disait Saint Augustin, Dieu avait donné aux anciens romains l'empire du monde en récompense de leur vertu naturelle. Et vous le perdez, romains, car vous avez rogné les vertus des romains de la République. C'est pas du tout parce que nous, chrétiens, on vous empêche d'offrir le sacrifice au Dieu. Voilà. Bon, donc, ils ont réussi quand même à pallier les barbares, ils ont christianisé les barbares en grande partie. Tension avec les pouvoirs européens chrétiens, toute la féodalité. Bon, c'est très beau la féodalité, mais c'est des combats incessants aussi pour que, par exemple, que les chefs féodaux respectent comme des trêves, etc., se christianisent un peu et n'asservissent pas trop l'Église. Querelle du sacerdoce et de l'Empire, 11e siècle, qui va durer en gros jusqu'à la chute des monarchies 18e, 19e siècle. Jusqu'au 18e siècle, c'était les rois qui nommaient qui désignait les titulaires, par exemple jusqu'à Louis XVI, les titulaires des bénéfices des grandes abbayes qui rapportaient du fric, pas les dominicains, parce que nous, on n'avait pas de fric. Hein. Sauf l'abbaye royale Saint-Maximin. Donc on était en temps de la commande. Mais pour comment on a foutu en l'air la vie religieuse et donc le catholicisme en Europe, entre le concordat, de Villers-Cotterêts jusqu'à 1789, c'est parce que, entre autres, le roi nommait. Donc il nommait ses fils naturels, il nommait des gens très bien aussi. Il y avait aussi Saint-Vincent de Paul. Plutôt celui-là qui est plutôt catho. Mais moi, j'ai récemment lisé un bouquin sur les nonces à la cour de Louis XIV. Et le prince de Condé, c'est pour dire que là, je vais tirer contre mon camp, là. Le prince de Condé demande aux nonces de dire, écoutez, au roi, donner une dispense à mon petit-fils pour qu'il ait l'abbaye de machin truc, qui était une abbaye juteuse, où les moines bossaient comme des fous pour que l'abbé puisse venir en carrosse chercher la portion congrue de tous les endroits. Et alors, on était un peu sidérés, parce qu'il n'avait pas l'âge canonique. Et bien, le pape
a donné à dispense, le petit-fils de Condé avait 2 ans. Alors, c'est trop ouf, hein, les gars, parce que 2 ans, il ne pouvait même pas être ponctionné, il faut avoir l'âge de raison, et même 14 ans pour pouvoir être clair, donc c'était invalide, quoi. Donc il y a des papes qui ont fait des trucs invalides. Bon. Alors ça nous console quand on voit des trucs qu'on fait pour le 6 ou qu'on n'aurait pas voulu qu'ils fassent. Quoi. Bon. Enfin, moi je fais des petites méchancetés, mais celle-là c'est tout à fait facultatif. Hein. C'est mon histoire à moi. Et puis, voilà. Mais bon, ça peut dire que malgré le mélange avec les structures de péché, parce que je pense que la commande est une structure de péché, de même qu'une certaine pression internationaliste actuelle, où la façon dont fonctionnent les médias sur les paroles des grands hommes est une structure de péché. Ben, malgré tout, l'Église existe. Bien qu'il y ait un effet, bon, voilà. Voilà. Donc il y a eu ça, querelle du sacerdoce et de l'Empire, affrontement incessant avec l'islam depuis les invasions du 6e siècle, 7e siècle, jusqu'aux victoires de Lépante et de Vienne, schisme de Phocius et de Cérulaire, 9e, 11e siècle, renaissance avec l'esprit païen, 14e, 15e siècle, grand schisme d'Occident, 14e, 15e, hein, prétendue réforme et guerre de religion, 16e, 17e, les Lumières, donc les Lumières, je prends au sens rationaliste et anticatholique, hein, donc 18e, rationaliste ensuite au 19e, révolution française et séparation progressive dans toute l'Europe jusqu'à donc la suite des derniers empires, hein, des églises et de l'État, philosophe athée du 19e, totalitariste du 20e, surtout le nazisme et le communisme, et puis 20e, 21e siècle, effondrement de la loi naturelle et structure de péché relativiste et consumériste. Eh bien, l'Église est toujours là. Ouais. Normalement, avec ça, plus avec les mecs qui sont dedans, qui ne sont pas toujours très glorieux. Vous voyez, c'était Napoléon qui s'excitait contre le négociateur du pape et qui disait « Si vous ne faites pas ça, je vais détruire l'Église. » Alors le nom se répond « Ah, si, ça fait 20 siècles que nous avons essayé, nous n'avons pas réussi, nous. » C'est comme le cardinal qui vous dit « Je ne suis pas incorruptible, mais je suis hors des prix. » Bon, c'est bon, non mais c'est la réalité, parce que la Renaissance et tout, les gens aiment bien tout ça, l'art et tout, mais bon, il y avait aussi le coup de la bagousse qu'on ouvrait. On vous invite à prendre un café, mais il fallait vérifier s'il n'y avait pas du poison dedans. Bon. Et ce n'était pas uniquement des laïcs qui faisaient ça. Donc il y a plein de salauds chez nous aussi. Bon. Mais peut-être que la densité est un peu moins grande quand même. En tout cas, la densité de saints, ça c'est un élément, mais la preuve, c'est parmi les saints. Alors donc, dernier point, voilà, c'est une citation de Pascal qui est absolument géniale. Quoi. Et Pascal pense que la survie de l'Église au travers de ça est une preuve de sa divinité. Donc, je vous ai mis une partie je crois que je vous ai mis l'essentiel de la citation. Il y a eu tellement de changements de toute nature, etc. 1000 fois, ce qui est admirable, incomparable et tout à fait divin, c'est que cette religion a toujours été combattue. 1000 fois, elle était à la veille d'une destruction universelle. Combien de fois on entend dire ça ? Et toutes les fois qu'elle a été dans cet état, Dieu l'a relevé par des coups extraordinaires de sa puissance. Et alors, il ajoute ce qui est étonnant, c'est qu'elle s'est maintenue sans fléchir et plier sous la volonté des tyrans. Ça, c'est un argument qui me touche beaucoup. Parce que moi, dans ma période dissidente, disons, pas agnostique, hein, donc il y a deux périodes un peu grises là dans ma vie, une tout à fait noire, une autre un peu grise. Dans ma période dissidente, je me disais, mais quand même, Paul VI, il maintient toute la loi naturelle. Alors qu'il a des embêtements à recevoir, il enseigne toute la morale naturelle, le respect du mariage, etc. Et je me disais, pourquoi il fait ça? Pour moi, c'était vraiment une interrogation. Et les tyrans, la presse les poussait à faire dans l'autre sens. Il n'est pas étrange qu'un État subsiste lorsqu'on fait quelquefois céder ses lois à la nécessité. Ce n'est pas vraiment se maintenir. Mais la religion n'a jamais souffert cela. Aussi faut-il des accommodements ou des miracles. Il n'est pas étrange qu'on se conserve employant. Ce n'est pas proprement se maintenir. Et alors, il ajoute une chose intéressante, c'est que même en faisant des accommodements, comme les dynasties des pharaons qui évoluent un peu, ou les différents stades, si vous voulez, de la romanité, quoi. Il y a à peu près 1000 ans de romanité, hein, latine. Mais il y a beaucoup d'accommodements. Hein. Chez les Byzantins, c'est pareil, il y a 1000 ans. Et c'est frappant. Je ne sais pas s'il a donné chiffre au hasard. Mais tâchez de calculer. Hein, c'est pareil pour les Chinois. On arrive difficilement à trouver plus de 1000 ans de continuité, hein, véritable. Hein. Pas simplement de titulaire du dynastie. Mais il n'est pas étrange qu'on se conserve employant. Encore périsse-t-il enfin entièrement, il n'en est point qu'à durer 1000 ans. Mais que cette religion se soit toujours maintenue et inflexible, cela est divin. Et je crois que c'est ça, la citation à la fin, c'est celle de Journet, qui dit, ben, au fond, il y a un mélange dans l'Église. Moi, ça m'a toujours fasciné, cette affaire-là. C'est comme, si vous voulez, un être qui a une grande personnalité, qui est très bon, etc., qui vous fascine, quoi. vous sentez bien, il y a quelque chose en lui qui est physique, hein, et qui se fait, voilà, et donc rien que ça, ça vous émeut, mais vous rendez compte qu'il est au-delà de ce qui apparaît. Une personne, c'est pas uniquement ce qui apparaît. Et bien l'Église, c'est ça. Il y a quelque chose qui est fascinant. Il y a une référence, et en particulier, je ne vous ai pas cité les passages de Maistre ou de Marie Carré qui dit, mais pourquoi est-ce que c'est l'Église catholique spécifiquement qui est attaquée? Marie Carré, en 62, disait, nous, les protestants, n'est pas tellement attaqués. Enfin, au moins dans les années 60, quoi. C'est surtout parce qu'il y a une sorte d'instinct de l'erreur, vous voyez. Donc on attaque celui qui représente la plus grosse dose de vérité. Et malgré ça, ben, l'Église s'est maintenue, tout en fascinant même certains de ses adversaires. Ces notes qui montrent à la raison qu'elle est digne de créance, et elle nous attire à un mystère qui est vraiment un mystère de liberté. Enfin, pour moi, je crois que en mourant, peut-être, si j'ai le temps de faire mon testament spirituel, je dirais que dans l'Église, j'ai trouvé la liberté. Quoi. Je vais chercher dans l'existentialisme, un truc où on meurt quoi, dans des prisons de désespoir. Et dans l'Église, avec le catholicisme, on trouve la liberté. Merci de votre attention. Et tout à l'heure, n'oubliez pas les petits moines que j'ai à nourrir avec le... Quelqu'un veut noter une question.
Oui, mais c'était pas très important.
Non, mais allez-y.
Vous avez dit que les orthodoxes, entre eux, certains étaient antérieurs, ils considéraient les
suivants comme hérétiques. Non, c'est plutôt que les suivants. Il faut vous dire, ce qui est important pour l'orthodoxie, c'est de reconnaître le concile de Chalcédoine. Nico et Cal, c'est le troisième. Nicée, Constantinople, Éphèse, pardon, et Chalcédoine, le quatrième. Voilà. Et au concile de Chalcédoine, on a défini contre Nestorius le fait que Marie, et on avait déjà défini à Éphèse que Marie était la mère de Dieu, mais à Chalcédoine, on a précisé que dans le Christ, il y avait deux natures distinctes dans une seule personne. Et donc les Nestoriens, c'est les Jacobites et une partie des Syriaques, se sont séparés à ce moment-là.
Oui. Et justement, qu'est-ce qu'il en est des Éthiopiens ?
Alors les Éthiopiens sont plutôt dans la ligne copte, c'est-à-dire monophysite. C'est-à-dire ceux qui restent sur une lecture tout à fait radicale d'Éphèse. Si vous voulez, il y a un peu deux tendances dans l'Orient. La tendance d'Alexandrie qui est un peu spiritualiste. Par exemple, un oriental, moi je parlais avec un arménien, un archevêque arménien, canadien mais arménien, et quand il parle du Christ, il dit toujours Dieu. Et leur tendance est de dire, voilà, il y a le Christ, on ne s'occupe pas qu'il y a deux natures, parce qu'ils sont très spirituels et tout. Par contre, les Nestoriens disent, oui, il y a deux natures, la nature humaine, la nature divine, mais comment elles sont coordonnées? Marie est la mère de l'homme, mais elle n'est pas la mère de Dieu. Il y a comme deux personnes, vous voyez. Quelquefois, ils ne s'en rendent pas trop compte. Mais alors, ceux-là sont rejetés par les Byzantins, qui s'estiment orthodoxes, et qui ont raison, de ce point de vue-là. Donc, il y a des nuances entre eux. C'est pour ça que c'est un concile pan-orthodoxe, je ne pense pas forcément que les Coptes et les Arméniens sont convoqués. Oui.
Vous avez parlé tout à l'heure du danger de réduire le Christ à un mythe.
Oui.
Réduire
le Christ à un mythe, oui.
Oui. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est un mythe, justement dans sa contradiction avec la religion?
Le mythe, bon, c'est une notion hellène et puis aussi orientale, c'est mythe en général, qui est une histoire racontée, un peu comme quand vous racontez quand vous faites babysitting, vous racontez une histoire. Il était une fois, là, tout de suite, l'enfant. C'est un rapport fictif à un réel supposé, vous voyez, mais qui permet de comprendre des choses. Normalement, il y a une leçon. Enfin, autrefois, quand on lisait Lucky Luke et tout, enfin, ou je ne sais pas quoi, enfin, des grands classiques comme ça, il y a une leçon, les bons gagnent, les méchants. Alors, dans le mythe, vous voyez, même des grands philosophes ont employé le mythe de la caverne de Platon. Platon nous dit, voilà, il y a l'homme est comme enchaîné, il voit que des ombres, il y a le soleil des idées, et il voit que les ombres des apparences, etc. Il sait bien que l'homme n'est pas enchaîné dans une caverne, mais ça lui permet de faire passer son idée sur le fait que la réalité, c'est les idées, et le monde sensible est une apparence sur laquelle on n'a qu'une probabilité. Et donc le mythe est un instrument qui doit amener l'homme à certaines vérités, soit philosophiques, soit religieuses, mais qui ne prétend pas être vrai en lui-même. Et donc, par exemple, la mythologie, vous voyez, le panthéon immoral, fondamentalement immoral, de Jupiter et tout cela, enfin version grecque, version latine, etc. Beaucoup de païens n'estimaient pas que ça s'était passé physiquement comme ça. Mais ça renseignait des choses sur les forces de la nature, sur la stabilité du monde, sur la divinité immanente qui faisait tourner tout ça. Et alors c'est encore plus affirmé chez les hindous, parce que les hindous ont un corpus fantastique qui fait des milliers, des dizaines de milliers de pages. On raconte des choses avec des, quelquefois des milliers de dieux. Mais est-ce qu'ils existent réellement ? C'est pas important. Parce que pour le christianisme, c'est ça la fameuse conférence de Ratzinger ici en 99, le christianisme dit, je vais vous dire, Saint-Pierre dit, une histoire vraie qui s'est historiquement passée en Palestine sous l'empereur Tibère. Vraiment. Et que aussi bien les hommes qui n'ont pas la foi que ceux qui l'ont peuvent atteindre. Et donc arnaque, en fait, voyant que le catholicisme romain est dans la ligne du catholicisme des apôtres, disent, mais oui, c'est vrai, mais c'est les apôtres qui sont trompés. Ils n'ont pas compris que le Christ venait moraliser, enfin, c'est des trucs, mais c'était une expression symbolique. Que, quand il disait, ceci est mon corps, c'était un symbole, enfin, etc. Alors, le mythe se déconnecte de la réalité, alors que la religion vraie affirme qu'elle atteint la réalité dans l'être qui est devant nous.
Donc le rationaliste croit à la vérité des évangiles.
Le rationaliste, non, et, ben justement, il y a deux écoles, enfin, on en avait parlé au moment où on avait parlé de l'histoire, c'est, il y a deux écoles, il y a l'école hypercritique et l'école hypermythique. Certains détruisent tout, ils disent le Christ n'a pas existé, et d'autres disent en fait le Christ a existé et c'est l'Église qui l'a fait Dieu. Il y a deux voies, et qui finissent par se battre aussi entre eux. Mais dans tous les cas, si vous voulez, on ne prend pas l'Évangile comme un texte historique. Et c'est le cas d'arnaque. Il est obligé de dire, les apôtres et les premiers successeurs ont mal compris, ce n'était pas un texte historique, c'était une histoire pour se remonter le moral en finissant son verre de bière, ou je ne sais pas quoi. Et actuellement, on est beaucoup dans... Parce que le rationalisme des protestants a atteint les chrétiens catholiques par l'oisie et le modernisme. Mais en fait, le modernisme qui a beaucoup pénétré les intelligences dites catholiques, c'est l'introduction de la philosophie de l'idéaliste à l'intérieur de la pensée catholique. À savoir qu'on n'y pas un dogme, on dit tout est vrai sauf sous Ponce Pilate. Ça, c'est pas historique. Tout est vrai, c'est... Mais l'intelligence n'atteint pas le réel, même aujourd'hui, là, maintenant, ni encore moins dans l'histoire. Donc en fait, c'est pour ça que Saint-Pilate a dit c'est l'égout des hérésies, parce que ça scie la possibilité de l'intelligence d'atteindre le vrai. Et donc après, évidemment, le christianisme, c'est une construction. Oui ?
Alors, si on était dans la foi, comment est-ce qu'on explique que pourquoi il n'y a pas une théologie qui
accepte ? Ah, magnifique question. Pourquoi y a-t-il des disputes théologiques s'il y a unité dans la foi ? Mais justement, il y a unité dans la foi, c'est-à-dire sur ce qui a déjà été suffisamment... intégré, médité, contemplé, vécu, pour qu'on arrive à le formuler clairement. Vous voyez ? Je prends l'exemple de l'Immaculée Conception. Il y avait des disputes parce qu'on disait, bon, la Sainte Vierge n'a pas de péché, elle est toute sainte, la Panagia, disent les orientaux, mais d'autres disaient, oui, mais attention, elle est rachetée par le Christ. Donc si elle est rachetée, elle avait un péché dont elle a été rachetée. De ça, ce que disaient les Dominicains, qui avaient tort. Contre les Franciscains, qui avaient raison. Ils étaient un peu mystico-dingo, d'accord, mais ils avaient raison. Mais alors, voilà, mais eux, les franciscains, certains des franciscains, pas tout ça, le mettaient sur une mauvaise base théologique. Vous voyez, en fait, certains en arrivaient à dire que la Sainte Vierge n'a pas été rachetée, ce qui est inadmissible. Alors, il a fallu toute une contemplation pour mettre au point le concept de rédemption préventive. Et Pie IX a défini, dans l'explication de la bulle, la Sainte Vierge a été rachetée préventivement, d'une façon meilleure que les autres, parce que la rédemption du Christ a été tellement forte qu'au moment où elle était conçue dans le sein de sa mère Anne, à ce moment précis, la rédemption de celui qu'elle allait engendrer l'a atteint et a empêché que le péché la touche. Et donc, c'était quand même un approfondissement. Et donc, il y a différentes écoles, voilà. Parce que ça tient, je crois, à la nature humaine, vous voyez. De même, dans la science dure ou banale, enfin, il y a aussi des choses qui sont admises par tout le monde et d'autres sont encore discutées. La grâce, oui.
Oui.
Non, la conception de la grâce chez les protestants part faussement de chez saint Augustin. Parce que saint Augustin est un corpus absolument énorme, et il faut lire saint Augustin avec saint Thomas. Saint Thomas est le plus grand augustinien. Parce que saint Augustin est un génie universel, fluvial, si vous voulez. Et donc, il s'est tapé à droite, tapé à gauche sur telle et telle chose. Il a lui-même, on a dit de lui, des papes ont dit, il a parlé avec moins de prudence dans certains aspects. Et donc, en fonction de son adversaire, il insistait sur un aspect ou un autre. Mais en fait, le plus grand des augustiniens, c'est saint Thomas, et l'Église s'y est pas trompée. Donc, si vous voulez, les protestants disent, et les jansénistes s'appuient sur Saint-Augustin, mais Saint-Augustin lut hors de l'ensemble catholique. Voilà, exactement. Il faut lire. Ça. Et justement, Saint-Augustin a dit à Pélage, c'est le jugement de l'Église universelle qui te condamne. Enfin, c'était contre Donat, ça. Mais on pourrait dire la même chose pour les protestants. Il faut lire les grands auteurs. Si vous lisez un père de l'Église d'avant le Concile de Trente, vous allez trouver des trucs dont certains sont dépassés, même faux. Donc c'est pour ça que le magistère est indispensable. Mais je vais vous dire, ça correspond à l'homme, quoi. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait une partie définie et des parties libres. Parce que ça libère l'invention. Par exemple, pour la grâce, je crois qu'actuellement, entre les jésuites et les dominicains, c'est pas encore tranché. Mais c'est bien comme ça. Parce qu'on n'a pas trouvé encore la synthèse. Mais moi, je crois au progrès, si vous voulez. Ça m'étonne, c'est que beaucoup de types de progressistes ne croient pas au progrès. Moi, je vais être parce que je suis scientifique, mais enfin, c'est évident qu'il y a un progrès, quoi. On est là, on répète les trucs, et non, métaphysique, je répète Saint-Augustin, je répète. Arrête un peu ça, ton truc, 5 minutes, quoi. Les scientifiques ont trouvé plein de trucs, à nous, les métaphysiciens, de les exploiter. Et je suis persuadé que pour la grâce, enfin, peut-être qu'aux arrière-petits-enfants le verront, il y aura un mec qui trouvera le moyen de concilier la liberté humaine et la toute-puissance de Dieu, du moins d'expliquer de façon encore plus vivante comment elle se concilie. Et comme ce n'est pas encore au point, alors que c'est nous qui avions raison, bien entendu. Hein. Les jésuites, matériellement, sont hérétiques. C'est bon. Mais le pape n'a pas voulu le dire. Non, mais c'est ce que je pense, moi. Je pense que les jésuites sont contraires à saint Paul. Hein. Enfin, du moins les molinistes. Hein. Mais vous voyez comme on est sympa, on peut quand même s'inviter, bien sûr. Mais le pape n'a pas voulu le dire parce qu'on ne s'exprimait pas bien, nous, suffisamment. Et parce qu'on n'a pas suffisamment contemplé le mystère, il faudra peut-être des martyrs, du sang, parce que la vérité, ce n'est pas un truc purement intellectuel. Donc c'est tellement nuancé, c'est tellement riche, vous voyez, c'est comme actuellement les théories sur la cosmologie scientifique. Moi, quand j'étais Orsay, on commençait bien, hein. Maintenant, c'est encore plus nuancé, encore plus. Mais c'est passionnant, quoi. On n'a pas dit tout d'un coup, si on a maintenant, on est à peu près sûr de certaines choses, mais il a fallu des tas d'espérances, de grosses expériences. Et je crois qu'au point de vue spirituel, c'est pareil. Donc, il y a une liberté qui est sympathique. Oui ?
Justement, à propos des dogmes tardivement établis, l'argument des orthodoxes, enfin, de certains orthodoxes et d'autres personnes, c'est de dire justement être montré que l'Église est pu rajouter des dogmes,
oui.
Alors qu'ils considèrent que.
C'est une très bonne question.
À la fin de la révélation des pères de l'Église.
Voilà.
On n'a pas le droit de...
Et votre question concerne l'intelligence, si vous voulez.
Et c'est vrai qu'il y a un gros trou.
Le problème, pas tous les orthodoxes, hein, parce qu'en fait, beaucoup d'orthodoxes admettent tous nos dogmes. Voilà. Ouais, en pratique, ils aient de la panagia, là, c'est autocos, c'est panagia et tout, mais ceux qui l'admettent ne veulent pas l'admettre parce que l'Église l'a défini. Mais ça, je vous dis, c'est comme ça, hein, pour montrer quand même qu'on peut un peu être... Bon. Mais c'est un problème d'intelligence. Quand on dit c'est la révélation est close à la mort de Saint-Jean, est-ce que ça veut dire que je vais simplement physiquement recopier les paroles grecques de Saint Jean? À la limite, la traduction en français serait interdite. Comme la traduction du Coran n'est pas une traduction. C'est une sorte, c'est une tolérance, mais le Coran, c'est en arabe. Parce que c'est des mots arabes que Mohammed est censé avoir reçus comme un canal. Donc nous, les catholiques, nous, on ne sait pas ça. La révélation est humaine et divine. Elle est divine parce que Dieu nous dit des choses, mais il les dit avec un langage humain. Or, le langage humain suppose des concepts, des jugements et un progrès. Oui. Donc il y a des concepts. Et, par exemple, la Trinité, le mot même de Trinité n'est pas dans l'Évangile. Les orthodoxes reconnaissent la Trinité. Donc ils sont contradictoires avec eux-mêmes quand ils disent on ne peut admettre que ce qui est matériellement dans l'Évangile. Et donc on n'a pas ajouté des dogmes, on les a explicités. L'infaillibilité pontificale était reconnue par tous les pères, je vous ai donné des textes. Le primat de juridiction du pontife romain était reconnu par tous les pères orientaux. Oui, d'accord, mais en pratique elle était aussi reconnue. Et seulement on a précisé... Si vous voulez, c'est le rôle de l'erreur. L'erreur permet de préciser l'expression intelligible de la vérité. Mais l'Église est déjà en possession de la vérité substantiellement. Alors, quand on dit ajouter des dogmes, ça veut dire quoi? Parce que eux-mêmes, on en a ajouté dans les premiers conciles.
Oui, mais comment expliquer, par exemple, que l'Assomption,
oui,
ce qui a toujours été cru,
oui,
n'est pas été promulguée au XIVe siècle, par exemple?
Eh bien, moi, je ne sais pas, c'est un fait. Et ce qui compte dans la réalité, mon cher ami, c'est les faits. Si vous êtes catholique, je pense. Oui. Non, mais je ne dis pas pour vous embêter. Hein. Mais c'est un fait. Donc, à partir de ce fait, on réfléchit. Oui. Parce que c'était pas mieux. Pourquoi est-ce qu'au début, l'Église ne parle pas de la Sainte Vierge? Pour éviter qu'on la prenne pour une déesse. Moi, je suis persuadé que le chapitre 12 de l'Apocalypse de Saint Jean, c'est l'Assomption. Mais il l'a mis en termes voilés pour éviter qu'on la divinise. Parce qu'à l'époque, on divinisait tout le monde. Oui.
Il s'agissait d'abord d'établir la divinité du Christ. Et la Sainte Vierge n'est pas divine, d'ailleurs. Bon. Et donc, il faut attendre que le contexte, si vous voulez, le flot de l'intelligence humaine, c'est des siècles, hein, surtout en métaphysique. Hein. Enfin, rendez-vous compte que, quand même, entre Aristote et saint Thomas, il s'écoule 16 siècles. Comment se fait-il qu'on n'ait pas tout de suite trouvé l'essence et l'existence, comme l'explique saint Thomas ? Ben, c'est pareil pour l'Assomption, il faut du temps. Puis, surtout, je crois que vous confondez. Moi, j'avais une question qui m'était posée par un de mes neveux, qui était informaticien, en mathématicien, et qui me demandait, maintenant, trois ou quatre fois ici, et en dehors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous un flash qui nous imprime tous en même temps le même credo dans la tête ? Ben voilà, parce qu'on est des hommes.
Non, mais assister.
Ah ben moi, j'ai des petites idées là-dessus. Attendez, parce que là, c'est... Moi, je vais vous dire, c'est parce que je pense qu'on a besoin de la Sainte Vierge. C'est comme on a besoin de Saint-Joseph. Là, j'ai fait un édito formidable. Enfin, vous verrez, enfin, lisez-le. J'ai déjà du retour. Hein. Mais je crois qu'on peut cartonner avec cet édito parce que je fonde le club des hommes virils. Donc, si vous voulez vous inscrire, cet édito, c'est la charte. Hein. J'ai déjà plusieurs abonnés. C'est gratuit, hein, l'inscription. Mais donc, voilà. Donc, là-dedans, dans ce truc-là, justement, pourquoi votre question, c'est... Oui, on a besoin de Marie, on a besoin de Joseph. Plus maintenant qu'avant. Je crois qu'entre 1830 et 1930, il y a une série d'apparitions mariales, et peut-être ensuite Akita au Japon. On a besoin de la Sainte Vierge, parce que je pense que la qualité de mal qui est diffusée actuellement est spécialement anti-féminine, de la vraie féminité et anti-humaine. Donc on a besoin de Marie pour nous donner la vraie féminité, et puis la vraie orthodoxie. Parce que Marie, vous voyez, Marie c'est la lumière de l'intelligence, enfin, et on a besoin de Joseph. Et Joseph, il y a une apparition du XVIIe siècle unique à Cotignac. Et le dogme, enfin le dogme, la présence de Joseph va se développer dans l'Église, je pense. Parce que se développe ce dont on a besoin, vous voyez. On avait besoin de Nicée en 325, on avait besoin de Trente en 1550, on a besoin de Marie maintenant.
Et à l'époque de Boniface, pourquoi il n'a pas fixé le dogme de l'Église ?
Mais il ne l'a pas fixé, mais il l'a exercé. Hein. La conclusion de la bulle Unam Sanctum, c'est... Mais si vous voulez, c'est... Attendez, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai trouvé un truc, le pape est plus intelligent que moi. Comme pape, hein, et même comme homme, celui-là. Pas de problème. Mais je veux dire, ça, l'Église est plus intelligente que moi. Dites-vous bien ça. Quoi. De même, je crois qu'un génie, c'est un type qui sait que les autres sont des génies aussi. J'ai vu aucun génie qui disait les autres, c'est de la merde. Ou alors, vraiment, c'était que c'est un malade et qu'il produit dans ses intervalles de lucidité. Et l'Église, c'est pareil. L'Église, c'est un dire, pourquoi elle fait ça ? Ben, aujourd'hui, on ne comprend pas. Dans 50 ans, on comprendra. Par exemple, Fatima est arrivée au début du communisme. Justement, on en avait besoin d'une certaine luminosité. Et la prière pour la Russie, faites la prière pour la Russie. Parce que c'est la prière qui a été faite à la fin des messes de rite de forme extraordinaire et pour la conversion de la Russie. Hein. Et je pense que si vraiment il pouvait y avoir une union entre le patriarche russe et... On en a besoin maintenant. Voilà, ça se présente comme ça.
Donc ça veut dire qu'il va y avoir...
Eh bien, Newman disait ça à ses copains. Quand Newman s'est converti, ses copains lui disaient « Mais alors, vous allez croire tous les dogmes définis ?» Il dit « Oui, et tous ceux qui seront définis dans l'avenir. » Il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais...
Et vous n'avez pas une petite idée ?
Non, moi, je suis plutôt bon public. Hein. Si, j'ai quelques idées, mais... Je préfère soutenir le... Quelques idées, ben on parle de la médiation universelle de Marie, mais je crois que ce n'est pas tout à fait. Ratzinger est contre, Benoît XVI est contre. Et le mot, vous voyez, co-rédemption, médiation universelle. Moi, je pense qu'il faudrait un texte qui extrait de Vatican II les noyaux les plus formels et qui donne leur degré d'autorité. Voilà ce que je souhaiterais au point de vue du travail du magistère. D'autres questions ? N'hésitez pas. Oui, allez-y.
C'est une vie qu'on apprend aux hérésies, tout ça. J'ai lu deux livres en particulier.
Un peu plus fort. Hein.
J'ai lu deux livres en particulier de gens qui se convertissaient de d'autres religions vers la religion catholique. Est-ce que toutes ces hérésies, ça n'a justement pas aidé à former tous ces dogmes ?
Absolument. Les hérésies sont des stimulus pour. L'erreur est un stimulus pour formuler la vérité. Et d'ailleurs, souvent, la vérité ne peut être formulée que négativement. C'est pourquoi moi, je suis pour l'anathème. Je pense qu'on doit revenir à l'anathème en disant, si quelqu'un nie ça, il est anathème. Parce que vous avez la liberté dans tout le reste. Et puis, c'est plus facile de déterminer ce qui est négativement exclu que ce qui est positivement affirmé. Et je pense que c'était une erreur de Jean 23, du bienheureux Jean 23, de dire, on ne va plus condamner. Moi, je pense que la condamnation est une condition de la liberté.
Enfin bon, c'est un peu original, mais enfin, je ne suis pas le seul à penser ça. Parce que ça stimule la réflexion et ça donne une liberté de recherche dans tout ce qui n'est pas condamné. Mais en effet, ça joue un rôle de stimulation, comme une erreur, une expérience qui invalide une thèse, quoi, ou une théorie. Quoi.
Quelque part, il y a toujours du bien dans le mal.
Ah, il y a du bien dans le mal. C'est que le mal, c'est le trou dans le bien. Le mal, c'est comme c'est le gruyère. J'aime beaucoup le gruyère, moi. Le gruyère où il y a des trous, quoi, vrai gruyère. Et il y a des trous. Et le mal est un trou, mais s'il n'y a pas de... dans le bien. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il n'y a pas de symétrie. Hein. Donc, si vous voulez, il a véhiculé un certain... Il s'est mis sur un certain bien qu'il a sorti de son orbite ou qu'il a, etc. Mais il peut nous stimuler. Par exemple, c'est vrai que le respect que les protestants pour l'écriture ou que les orientaux pour la transmission des traditions apostoliques peut nous stimuler. Mais il faut les récupérer, vous voyez. L'hérétique est celui qui affirme une seule vérité en dehors de l'ensemble. C'est, oui. Et donc il faut la remettre dans l'ensemble et là ça va. Mais c'est pas facile d'être équanime et c'est pour ça qu'il faut toute l'Église pour ne pas, vous voyez, heureusement qu'il n'y a pas que des dominicains, quoi, ou que des jésuites, ou que des bénédictins, ou des... Parce que vous savez la définition des gouvernements, les bénédictins c'est la monarchie débonnaire, les dominicains c'est la démocratie excessive, et les jésuites c'est la tyrannie tempérée par la désobéissance. Donc, vous voyez, c'est des tempéraments très divers. Mais c'est vrai qu'on a besoin de tous nous entraider pour ce qu'on oublie des aspects. Moi, j'apprécie beaucoup cette variété dans le monde. Donc, rendez-vous.